Production. Effectivement, j'ai commencé par me présenter parce que via ma présentation, vous allez comprendre pourquoi il y a deux présentations, deux séries de slides, une Seva et puis une Exana. D'abord, je voulais m'excuser pour la dernière fois, pour tous ceux qui étaient venus et mon train qui a eu 2 heures et demie de retard. J'ai pu arriver ce matin avec beaucoup de marche, je suis arrivé à 9 heures du matin, ce qui m'a permis de visiter la forge du Creusot avec Camille, que je remercie. Et c'était une bonne journée. Donc voilà, donc moi, Paul Gauthier. Non, c'est bon, c'est l'enregistrement. Donc j'ai fait ma carrière au CEA, je suis entré au CEA en 2006 et j'ai commencé par travailler à un réacteur qui s'appelle Phoenix sur le site de Marcoule à l'époque où ce réacteur au sodium fonctionnait encore. Et à Phoenix, j'ai fait de l'exploitation, de la sûreté, j'ai fait des essais fin de vie, j'ai fait du 3-8, j'ai fait directeur d'essai. On a fait plein de choses formidables et c'était vraiment exceptionnel. Le réacteur s'est arrêté en 2010. Et en 2010, j'ai rejoint Cadarache pour travailler sur le grand projet RNR qui a suivi, c'est-à-dire Astrid, un projet qui a duré 9 ans. Pour Astrid, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la conception, j'ai fait de la sûreté, j'ai fait de la thermohydraulique. J'ai fait pas mal d'international aussi avec le forum Génération 4. Et à la fin du projet Astrid 2019, le CEA se réorganise un petit peu et on décide de créer un projet pour maintenir, on va dire, un peu la fibre, l'innovation sur les réacteurs et une certaine dynamique. Et donc ce projet s'appelait Esquisse et veille technologique, donc esquisse de réacteurs. Dans ce projet, on a fait des esquisses de petits réacteurs modulaires au sodium, d'où est né Exana après. On a fait aussi des réacteurs à sel fondu, d'où est née une autre start-up qui s'appelle Stellaria, j'en parlerai. Et puis de la veille technologique, donc on avait une mission quasiment régalienne du CEA de connaître tout sur tout. C'est un domaine qui foisonne beaucoup. On est très souvent interrogé au CEA par les ministères, les tutelles, l'Élysée sur tiens, j'ai entendu parler de ce truc dans tel pays, qu'est-ce que c'est? Et donc, voilà, moi je connais bien le panorama international. Donc, cette conférence, effectivement, quand on a été mis en contact, j'étais encore purement CEA dans mon rôle de chef de ce projet. Et donc, ça, ce sera la première présentation où je vais vous faire un overview et un grand panorama de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe en France avec les startups françaises. Et puis, depuis quelques mois, avec 2 collègues, on se lance pour de vrai dans l'aventure en créant une startup qui va s'appeler Exana, qui vise à promouvoir, à développer un petit réacteur sodium. Et donc ça, ce sera une deuxième présentation où je vous présenterai un peu ce projet et cette startup qui démarre en ce moment. Et voilà. J'essaierai, on va garder, donc on fera une pause entre les deux présentations, prendre des questions, je pense, sur la première partie. Je pense une demi-heure à peu près la première partie, des questions, puis après 20 minutes sur Exana. Voilà un peu le programme. Et donc, pour finir, pour que ce soit clair, là je suis encore CEA, bon, je suis en processus d'essaimage, on est en train de créer la société. Donc voilà, c'est pour ça que je peux aussi afficher des slides de CEA. Même si ce n'est pas la dernière charte graphique, j'espère qu'il n'y a personne qui m'en voudra. J'ai pas eu le temps de faire ça. Alors, SMR, AMR, Panorama et Perspective. SMR, je pense que c'est un terme qui est assez clair pour tout le monde maintenant, Small Modular Reactor. AMR, peut-être moins, mais j'expliquerai assez longuement ce que c'est Advanced Modular Reactor. Et donc, ce que je vous propose dans cette première présentation. Ça ne marche plus. Ouais, je sais pas, tout à l'heure, ça a marché. Ouais, ça, c'est embêtant, parce que c'est bien là. Ah, c'est bon, ça va démarrer. Je vais présenter un petit peu Gen 4, réacteur de 4e génération, reparle un tout petit peu de pourquoi les réacteurs à neutrons rapides, enfin, sans faire trop de physique, mais un minimum quand même pour comprendre pourquoi. Physiquement, on est dans le vrai quand on veut développer ces réacteurs-là. Contexte et panorama mondial, un focus sur la France. Même en France, il se passe beaucoup de choses ces derniers mois, depuis 1 an et demi environ. Donc là, j'ai un panorama up to date. Vous allez peut-être découvrir des startups que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas encore sorties du bois. Et donc voilà. Et puis, une petite conclusion. Alors, les réacteurs de 4e génération. Sur ce slide, il est un peu général, mais pour expliquer que on connaît tous l'avantage du nucléaire, très bas carbone, très forte densité énergétique, qui fait que si on veut être sérieux un moment sur la question climatique, il faut remplacer une bonne partie des fossiles par du nucléaire. Les renouvelables ne pourront pas tout, ce qui va accroître la consommation, la demande d'électricité dans le futur, partout dans le monde, un besoin de production décarbonée massif en base. Et donc, un des corollaires de ça, c'est que dans le futur, plus on développe de nucléaire, plus il y a de tensions sur le marché de l'uranium, plus la question des déchets est prégnante dans les sociétés concernées. Et donc, quelque part, plus on développe du nucléaire, plus on a intérêt d'aller vers du nucléaire plus durable. Et ça, on le voit bien. Et un ordre de grandeur que j'adore, c'est ça. Réduire un tiers le CO2 mondial, c'est quelque chose qu'on saurait faire, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est toutes les centrales à charbon, c'est un tiers du CO2 mondial. Bon, c'est hallucinant. Vous voyez ces monstres-là au Royaume-Uni, en Allemagne. Et donc, tout ça, on sait faire parce qu'on n'en a plus en France. Donc, on pourrait déjà montrer l'exemple, ça ne ferait pas tout, mais voilà. Donc, ça, c'est le panorama. Alors, nucléaire durable, de quoi parle-t-on? La ressource en uranium, quelques chiffres. Au rythme actuel, on estime qu'on a, peut-être 200 ans de stock au rythme actuel, en moyenne. Ce qu'on estime, la projection en 2050, avec un doublement, voire un peu plus si on est sérieux avec le net zéro, avec notamment en Asie, l'Asie qui va construire énormément de réacteurs, ces réserves elles peuvent passer à entre 60 et 120 ans. Donc c'est dans pas longtemps, quoi. C'est-à-dire que si on démarre un EPR en 2050, durée de vie 60 à 80 ans, est-ce que cet EPR a encore du combustible à sa fin de vie 2130? On commence à toucher du doigt les pénuries potentielles. Alors, l'uranium, vous savez bien que dans le minerai, il y a très peu d'uranium-235 qui est celui qui est utile dans les REP, et il y a beaucoup d'uranium-238, qu'on appelle l'uranium appauvri, qui n'est pas utile en neutrons thermiques. Et donc, un des intérêts du neutron rapide, ça va être d'utiliser cette ressource-là, le plutonium, notamment 239. Donc, par capture neutronique sur l'uranium-238, on produit du plutonium-239. Et ce plutonium-239, il est très fissile en spectre rapide quand les neutrons ont assez d'énergie. Chaque fission sur le plutonium fait 3 nouveaux neutrons. Donc, c'est beaucoup plus que même sur l'uranium-235 en thermique. Donc c'est une machine à faire de la densité énergétique assez incroyable, le plutonium, avec des neutrons rapides. Et donc tout l'intérêt, c'est que si on n'utilise que ça, on épuise vite nos réserves, parce que ça, c'est que 1% de la tonne de minerai qu'on extrait dans les mines. Si on utilise ça plus ça, les 99%, ça c'est 300 000 tonnes sur le sol français disponible à Pierre-Latte qu'on pourrait réutiliser. C'est des siècles d'énergie avec les neutrons rapides. Alors bon, voilà, ça explique la même chose, mais si vous voulez un peu plus de détails, c'est je ne vais pas l'expliquer, c'est un peu long, mais vous voyez un peu le principe, quoi. L'U-238, il y en a plein, on le transforme en PU-239. Qui, en neutrons rapides, est très fissile. Alors le problème, c'est ça, c'est pour que les neutrons soient rapides, il ne faut pas les ralentir, c'est la définition, il faut qu'ils aient assez d'énergie, et donc il ne faut pas de modérateur, et donc il ne faut pas d'eau, parce que dans les REP, l'eau agit comme un modérateur, et donc si on veut du neutron rapide, on ne peut pas avoir d'eau, donc c'est une filière différente que 95% des réacteurs qui existent dans le monde, et ça peut être des métaux liquides, des gaz, des sels comme caloporteurs, et donc tout ça, c'est connu depuis les années 50, toute la théorie derrière ça. Ce que ça fait sur le cycle aussi, ça c'est assez connu, c'est-à-dire que ça c'est le cycle actuel, donc on est très content en France parce qu'on maîtrise tout. Orano sur cette partie-là, FRA, EDF, EFRA ici, EDF ici, Orano ici. Néanmoins, on n'est pas au bout de l'histoire parce qu'on recycle un petit peu avec le MOX, à Mélox, mais on accumule des MOX usés. À l'AG, enfin les REP qui sont moxés, on les met qu'une fois, les MOX. Donc on accumule du plutonium, beaucoup de plutonium, 120 tonnes par an, dans les piscines entreposées à l'AG. Et puis on fait aussi des déchets, des PF, des actines mineures. Donc l'intérêt du RNR, c'est vu qu'on réutilise ce plutonium, on peut aller vraiment vers ce qu'on appelle la fermeture du cycle, fabrication de combustible MOX RNR avec du plutonium. Passage en RNR, production d'énergie, retraitement, uranium-plutonium, et à la fin, on n'a plus besoin de la mine, on utilise environ, pour faire marcher tout le parc français, 50 tonnes d'uranium appauvri. Et on en a 300 000 tonnes. Donc je vous laisse faire les calculs, mais c'est des siècles et des siècles d'autonomie énergétique. Donc Gen 4, les réacteurs Gen 4, les réacteurs à neutrons rapides, en gros, c'est des réacteurs qui font passer aussi la chaîne de valeur sur le cycle du combustible de cette partie-là, qui est majoritairement cette partie-là et un peu cette partie-là actuellement en France, à une partie où c'est vraiment le retraitement. Et effectivement, On s'affranchit des mines, on s'affranchit de l'enrichissement, on s'affranchit de la conversion. Voilà, donc autre avantage des RNR, la réduction des déchets. Le plutonium, ça peut être vu à la fois comme le problème et comme la solution. C'est-à-dire que si on n'en fait rien, c'est effectivement un des éléments les plus radiotoxiques. Et si on doit le mettre dans les verres, dans les déchets, puis après dans CIGEO, bah, c'est un vrai problème parce qu'on en a beaucoup. Ça contribue beaucoup à la radiotoxicité. C'est très chaud pendant longtemps. Donc il faut en faire quelque chose. Si c'est un déchet, c'est un problème. Sauf que ça peut être une ressource avec un RNR, avec ce potentiel énergétique très élevé. Et donc, ça, cette courbe, elle est très connue, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être commentée. C'est la radiotoxicité des déchets. Donc ça, c'est l'uranium quand il sort de la mine. Un déchet de REP, si on n'en fait rien, bah, voilà, on est sur du entre 100 000 et 200 000 ans avec son plutonium, ses actinides mineures, etc. Et déjà, on gagne un bon facteur 10 si on enlève le plutonium. C'est-à-dire si dans les déchets, il n'y a plus que les actinides mineures, les produits de fission, on est déjà plus sur le même ordre de grandeur. Et après, bah, les neutrons rapides, ils peuvent aussi, sur des réacteurs un peu plus compliqués, traiter les actinides mineures. Et à ce moment-là, dans les déchets, on n'a plus que les produits de fission, 300 ans de durée de vie. Bah, voilà, là, donc la solution sur les déchets, elle est connue depuis longtemps, c'est de faire tout ça. Alors, si on ne le fait pas, c'est parce que c'est quand même plus complexe que de rien faire, plus cher, faut des politiques de long terme, etc. Mais il n'empêche que tout ça, c'est pas que de la théorie, parce que tout ça, au CEA, en 50 ans, que ce soit sur la partie combustible, réacteur, irradiation avec Phoenix, sur la partie retraitement, on a tout fait. Il n'y a pas de faisabilité scientifique ou technique derrière ça. Il y a une réalité industrielle où il faut y aller. Mais quelque part, c'est pas que de la théorie, on est allé plus loin que de la théorie. Donc voilà, ça c'est un peu RNR 101, introduction rapide. Donc cette idée-là, un peu vieille, hein, des années 50, elle a été un peu renouvelée au début des années 2000 avec la création du Forum Génération 4, hein, des pays qui se sont associés pour se dire quand même il faudrait accélérer sur le sujet et développer ces filières-là. Il y a 6 filières qui ont été retenues pour être considérées comme les filières de réacteurs avancés officiels. Donc 5 filières, on va dire, rapides et une filière thermique. Donc le réacteur sodium, le réacteur au plomb, le réacteur rapide gaz, le réacteur à sel fondu qui peut être en spectre rapide ou en spectre thermique, le réacteur à eau supercritique, pareil, et puis le réacteur à très haute température, very high temperature réacteur, qui a été introduit dans le GIF, pas forcément pour l'aspect durabilité, c'est pas un réacteur à neutrons rapides, mais plutôt pour l'aspect nouveau service de décarbonation avec de la chaleur haute température qui pourrait servir à l'industrie. Donc ça, c'était les années 2000. Voilà, donc vous voyez un peu les différences. Hein. Un des principaux points communs par rapport aux réacteurs REP qu'on connaît, c'est que c'est tous des réacteurs à plus haute température. Et c'est aussi un challenge, quelque part, c'est un avantage parce que meilleur rendement électrique, parce que tout un tas de choses, mais c'est aussi un challenge en termes de durée de vie, de dimensionnement, etc. Et donc voilà, les métaux liquides, on est vers 500, les réacteurs à gaz, on peut aller jusqu'à 800, les MSR, c'est un peu intermédiaire, 700. Il y a différents fuels, du MOX, du carbure, des nitrures, là c'est fuel liquide, c'est les sels fondus. Voilà. Donc, la Gen 4, les deux potentialités, c'est vraiment cet aspect fast, neutron rapide pour le recyclage du combustible. Et puis le deuxième intérêt qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est ça, quoi. C'est finalement ce défaut, on va dire, d'avoir de la haute température, et c'est quand même plus compliqué, en faire un avantage en disant bah, on va apporter des services que les REP ne peuvent pas apporter, parce qu'on fournit de la chaleur à haute température, et ça intéresse plein de gens. Il y a plein de gens qui ont besoin de ça, qui veulent se décarboner et qui se réintéressent à ces réacteurs-là. Ça explique en partie le foisonnement un peu actuel, et puis j'en parlerai pour Exana aussi. Un truc qui n'est pas connu, j'aime bien commenter ce truc-là, nucléaire durable, de quoi parle-t-on? Ça, c'est une publique du CEA qui est assez intéressante, qui compare c'est quoi l'impact environnemental du nucléaire de manière générale. Voilà, sur tout un tas de thèmes, hein, CO2, le soufre, pollution de l'eau, de l'air, acidification, etc. En marron, c'est la mine. En fait, l'impact environnemental du nucléaire, c'est avant tout la mine, avec des activités minières. En vert, là, c'est l'enrichissement, etc. En bleu, c'est les réacteurs. Et donc, notamment sur le CO2, ce qu'on peut remarquer, c'est que la moitié de l'impact CO2 du nucléaire, donc, qui est de 4 grammes CO2 par kilowattheure en France, qui est estimé à 12 grammes en moyenne mondiale par le GIEC, par l'AIEA, Et ben, la moitié de ça, c'est mine et enrichissement. Donc les réacteurs Gen 4 qui n'ont ni mine ni enrichissement, ils divisent par deux l'impact carbone du nucléaire. Et donc un Gen 4 français, le chiffre, je ne l'invente pas, il est de la même publi, hein, il sort à 2,3 grammes de CO2 par kilowattheure. Et en fait, ça, on n'est plus dans le bas carbone, on est dans l'ultra bas carbone. C'est 5 fois moins qu'une éolienne, c'est 20 fois moins qu'un panneau solaire, 400 fois moins que le gaz, enfin, etc., etc. Donc on est vraiment dans le monde de l'ultra bas carbone, et on imagine bien que utiliser ça pour décarboner des gens qui utilisent du gaz pour faire de l'hydrogène, pour chauffer, pour les raffineries, etc., bah, tout de suite, l'impact carbone des industries, si on utilise ce genre de solution, il baisse immédiatement. Donc voilà, la conclusion sur le RNR, c'est que c'est un objet qui a de tout temps été super intéressant pour tout ça, tout ce que j'ai expliqué, hein, la préservation des ressources, la minimisation des déchets, mais qui a toujours, pâti d'un surcoût par rapport à un REP. Un REP qui est déjà cher dans les REP un peu nouveaux qu'on a du mal à se faire financer. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas tartiné la planète, quoi. Et donc pour en faire, c'est pas encore une décision économique. Et donc les pays qui ont continué les RNR, c'est que des pays qui avaient des visions long terme, politiques, stratégiques, technologiques, de leadership sur ces technos à long terme. Et donc dans toutes les démocraties modernes, bah, tous les gens qui avaient des programmes RNR, la France, les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens, enfin tous les programmes RNR, les Japonais, les Coréens, se sont un peu stoppés dans les années 90-2000 en disant bah, le gaz est pas cher, de l'uranium il y en a plein, c'est pas cher, les REP et puis les RNR c'est plus cher, donc le jeu en vaut pas la chandelle. Donc les seuls pays qui ont continué, c'est la Russie et la Chine, c'est des pays qui ont des visions civilisationnelles à long terme, ce qu'on n'a plus trop. Et donc une des idées, c'est de se dire bah, vu qu'on a tous ces intérêts à long terme et qu'on est sûr d'être du bon côté de l'histoire en développant ces réacteurs, pourquoi pas essayer d'accélérer un peu leur développement en leur trouvant d'autres business models. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Exana, et c'est ce que j'expliquerai dans une deuxième partie. Voilà, donc ça c'est le RNR, pourquoi. Un peu de vocabulaire maintenant. Donc j'ai expliqué RNR, réacteur à neutrons rapides. Là, il peut y avoir plusieurs technos, hein, sodium, plomb, plusieurs tailles, etc. Ça peut être du Gen 4, ça peut être des vieux. Phoenix, c'était pas vraiment Gen 4, on va dire. Après, l'autre vocabulaire, donc les SMR. SMR, Small Modular Reactor. Donc là, c'est défini par la faible à moyenne puissance. Hein, on retient souvent 300 MW électriques comme la borne haute pour les SMR. Et on cherche à avoir un modèle économique pour contrer l'effet de taille, j'expliquerai. AMR, c'est un terme qu'on utilise en France, au CEA, dans plusieurs pays. Ce n'est pas encore un terme, on va dire, complètement stabilisé mondialement. La IEA parle d'autre chose. Enfin, voilà. Donc nous, on parle d'AMR, Advanced Modular Reactor. C'est de plus en plus ce qu'on voit. Donc c'est le même principe, sauf que ce n'est pas un réacteur à eau. Ici, on est sur un réacteur à eau, pressurisé ou eau bouillante. Ici, on est sur tout ce qui n'est pas eau. Donc ça peut être type Gen 4, des sels fondus, des métaux liquides, du gaz, etc. Donc c'est une convention adoptée au CEA qui n'est pas encore totalement standardisée. On a vu la UA l'année dernière dire on va appeler ça des nouvelles réacteurs. Bon, c'est pas terrible, mais nous on utilise AMR. Alors il y a un autre acronyme, c'est le MMR, Micro Modular Reactor. Donc là on est sur de la très petite puissance, 1 à 20 MW électriques. Et généralement c'est plutôt pour des marchés assez spécifiques, le militaire, les communautés isolées, si on pense à des îles, si on pense à des mines qui peuvent être très isolées en Sibérie, au Canada, etc. Il y a aussi le spatial, micro-réacteurs spatiaux. Donc ça peut être pour de la propulsion, mais aussi pour alimenter les bases lunaires, les bases martiennes. Donc ça se développe aussi assez peu en Europe, mais il y a pas mal de choses aux États-Unis. Et puis un autre acronyme aussi que je voulais expliquer, parce qu'il y a souvent une confusion avec celui-là, c'est le MSR, Molten Salt Reactor. Donc ça, c'est le terme générique pour les réacteurs à sel fondu. Ils sont pas forcément petits ou grands, enfin c'est le terme générique comme RNR. Donc voilà, tout ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, il y a deux drivers, un peu, enfin deux leviers principaux de développement de ces réacteurs un peu nouveaux, qui sont différents des REP de puissance. Il y a la question des ressources et de la souveraineté, qui fait que les gens continuent à s'intéresser aux réacteurs à neutrons rapides, dont la petite puissance, et on en parlera. Et la question des nouveaux usages pour la décarbonation. Les usages chaleur, la flexibilité, aller vers de la très petite puissance pour remplacer les groupes électrogènes, etc. Donc, voilà, pourquoi finalement tout ça, ça se développe au-delà de ça? C'est une demande du marché, quoi. C'est-à-dire que le marché, il dit il faut se passer du fossile. Il y a plein d'endroits où le fossile, c'est des centrales gaz ou charbon d'environ 200-300 mégawatts électriques, avec des pays qui n'ont pas forcément les réseaux électriques pour faire plus. Et donc, il y a énormément de pays qui veulent faire du remplacement à puissance équivalente de leurs centrales fossiles. Ça, c'est un premier driver pour des gens comme Newark, par exemple. Il y a la décarbonation industrielle pour ceux qui veulent faire de la haute température. Il y a les endroits où il y a trop des petits réseaux pour avoir de la forte puissance. Donc, et puis, il y a aussi une appétence, je dirais, pour faire des plus petits réacteurs qui coûtent moins cher, où on prend moins de risques financiers. Et donc, on a besoin d'un modèle économique pour contrer l'effet taille. Donc, l'effet taille, c'est quoi? C'est ça, c'est-à-dire que... On sait que le coût au kilowattheure, historiquement, plus on fait gros, plus il diminue. Et donc, en France, hein, on connaît par cœur l'histoire, les CP0, CP1 à 900, puis les 1300, puis 1450, et puis EPR 1650. Et si on va dans l'autre sens, on sait que c'est défavorable. Et donc, comment contrer cet effet de taille, cet effet d'échelle qui est défavorable? Il y a plusieurs choses. Alors, si on fait des plus petites unités, on va faire des sites avec un certain nombre d'unités pour mutualiser des choses, quoi. Ça peut être fait aussi sur des gros, mais c'est un premier aspect. Il y a la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on construit un gros réacteur tous les 20 ans ou 30 ans, je ne vous fais pas un dessin, enfin, vous avez peut-être lu le rapport Foltz, etc., c'est qu'on n'a pas le plan de charge pour gagner sur la courbe d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on connaît bien dans les usines ici, quoi. C'est-à-dire qu'il faut maintenir sur le long terme. Et donc, quand on fait des plus petits, on en commande plus régulièrement. C'est ce que fait la marine avec les sous-marins, quoi, de maintenir un plan de charge un peu régulier. Et donc, c'est plus facile avec des plus petits où on va commander plus d'unités à la fois. Les plannings de construction, donc ça c'est peut-être un des trucs les plus importants. Si c'est plus petit, on construit plus vite. Si on construit plus vite, on a moins d'argent immobilisé. Le coût de l'argent pendant le chantier est moins cher de ce qu'on doit emprunter, les coûts financiers. Et donc ça, sur des chantiers comme Hinkley Point, le coût de l'argent, les coûts financiers, c'est je crois 60% du coût à terminaison. Donc les durées de chantier, c'est crucial. Unit timing, là, c'est le fait de pouvoir commencer à rentrer de l'argent avec un premier module et continuer à construire des modules après. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une centrale SMR avec 8 unités, je démarre la première qui commence à rentrer de l'argent pour commencer à rentabiliser et finir de construire les autres. Donc ça, pour les financiers, c'est quelque chose qui les intéresse. Ça réduit les risques aussi. Et puis, à la fin, plus petite puissance égale plus de simplification des systèmes passifs. Et donc, on estime qu'on peut réduire aussi le CAPEX de ces unités. Et donc, tout ça, l'espoir de tous les gens qui développent des SMR et AMR, c'est de mettre des vrais chiffres et des vraies réalisations derrière ça. Pour l'instant, ça, c'est de la théorie. Il y en a peu ou pas des SMR dans le monde. Voilà. Et on peut faire encore mieux, c'est le petit point vert en disant en dessous, si on se met à faire énormément de fabrication en usine. Les gens qui font des micro-réacteurs, ils veulent faire des micro-réacteurs comme on fait des batteries. Une gigafactory, un camion, hop, et je vais n'importe où dans le monde livrer mon micro-réacteur. L'ouverture de nouveaux marchés avec les applications chaleur, non électrogènes au sens large, et puis des nouveaux éléments de contexte. Par exemple, on peut penser à tous les textes réglementaires en Europe, les taxonomies européennes, les NZIA, etc., qui souvent... aime bien le nucléaire mais pas trop, c'est-à-dire le nucléaire seulement si c'est innovant, si c'est petit, si c'est machin, si c'est truc. Et donc à la fin, c'est pas forcément malin du point de vue de l'Europe, mais par contre pour les développeurs de SMR, c'est plutôt un argument intéressant de dire c'est des solutions intéressantes. Donc voilà, tout le monde se lance. Alors je commenterai 2-3 noms, mais on considère, l'AUA considère qu'il y a à peu près 70 concepts en cours. Nous, dans notre décompte, on est un peu plus, on est plutôt vers 80-85, notamment avec les créations en France et en Europe assez récentes. Il y a différentes façons de les classer, les rapides, les machins. Donc, ça, c'est la façon de classer du DOE, ça, c'est de l'AIEA. Nous, on a une autre façon. Je vous ai mis quelques startups un peu représentatives en Europe dans les dernières qui sont sorties ces dernières années. En France, les deux plus représentatifs, parce que ça a été les premières à se lancer, c'est Naria et Jimmy il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai mis Exana quand même dans mon tableau, parce que voilà. Mais je les commenterai un peu toutes un peu plus tard. Donc Voilà, c'est quoi la tendance ? Il y a un foisonnement, clair. Il y a un foisonnement depuis 2010. Néanmoins, le nombre de créations de start-up ralentit. Il y a eu un vrai foisonnement dans les années 2017 à 2020, on va dire, où il y a eu énormément de créations à travers le monde. Avant, il n'y en avait que quelques-unes. Il y avait TerraPower, Terrestrial, NewScale. Enfin, il y avait 3-4 concepts. Ça a vraiment explosé dans ces eaux-là. Ça se ralentit quand même, le rythme de création. Sauf pour les tout petits, les micro-acteurs, il y a toujours un peu de... Enfin, toutes les semaines, toutes les deux semaines, il y a un nouveau concept qui sort quelque part dans le monde. Donc, on serait fou de croire que tous ces gens-là vont réussir, que tous vont réussir. On serait fou de le croire. Ça n'arrivera pas. Et il y a plein de gens qui vont échouer. Mais je pense qu'on serait fou de croire qu'il ne va rien se passer aussi. Et il y en a qui vont y arriver, quoi. Et donc, souvent, la phase la plus simple, elle s'achève pour ceux qui ont démarré. C'est-à-dire, la phase la plus simple, c'est ce que je vais vous faire après. C'était du PowerPoint, Exana, c'est magnifique. On fait une belle CAO, on fait un discours, un business model. Ça, c'est la phase facile. C'est bien à faire, il faut commencer par là. Mais ça reste une phase facile. Quand on développe un réacteur nucléaire, les phases compliquées, elles sont là. C'est les questions de licensing, c'est les questions de cycle, de supply chain combustible, de supply chain gros composants, qui sont globalement complètement sous-estimés dans la plupart des projets en cours. Il y a beaucoup de gens pas sérieux aussi, qui veulent juste faire une culbute financière en vendant un peu du rêve, mais qui n'ont pas envie de s'attaquer à ça, parce que ça, c'est difficile, c'est risqué, il faut connaître, ça demande du manpower, ça demande de l'expertise, de la compétence, et tout le monde ne le fera pas. La tendance aussi, c'est l'usage marqué, l'orientation marquée sur les usages finaux non électrogènes, donc faire autre chose que de l'électricité. Et puis, un autre quelque chose qu'il faut rappeler, c'est... la Russie qui sort un peu du giron mondial sur les collaborations, et ce qui posait un problème parce que c'était un des seuls endroits où on avait accès à du neutron rapide. Ils ont encore des réacteurs sodium expérimentaux où on peut faire des irradiations. On ne peut plus faire d'irradiation en Europe, ni aux États-Unis, ni au Japon, et donc développer de nouvelles choses sans outils d'irradiation, dès qu'on va parler licensing, c'est un truc qui va vraiment bloquer. Donc voilà, foisonnement certain. Donc au CEA, on fait un peu plus que de la veille, on fait de l'intelligence économique pour trier un peu tous ces projets. Donc on regarde qui a de l'argent, qui s'attaque vraiment au licensing, qui se soucie du combustible pour trier un peu les projets sérieux, pas sérieux. Et la question de fond, c'est de se dire, en complément des rêves de puissance, qu'est-ce qui va passer ? Quelles sont les choses qui vont être dominantes en 2050 sur tous ces nouveaux usages ? Alors un petit tour d'horizon de certains pays. Donc aux USA, dynamique extrêmement bien soutenue par des programmes de financement nationaux. Il y a eu un programme qui s'appelait Advanced Reactor Development Program avec 2,5 milliards d'euros de subventions d'État lors d'un appel à projet. Donc c'est 5 fois plus que l'appel à projet qu'on fait nous, qui est à 500 millions d'euros, pour avoir des lauréats. Donc les deux lauréats, vous les connaissez sûrement, c'est ces deux-là, c'est le Natrium de TerraPower, donc un réacteur sodium, et le X100 de X-Energy, qui est un réacteur HTR, donc haute température à gaz. Donc eux, ils ont quasiment eu chacun 1 milliard d'euros. Et ils ont le double en argent levé à côté. Donc ils ont de l'argent pour y aller. Les dates, on y croit ou pas, mais ils ont de l'argent, ils avancent. Il y a d'autres choses, il y a Kairos qui avance aussi avec un petit réacteur de 50 MW. Il y a des gens qui font des micro-réacteurs, Oklo, qui a un micro-réacteur sodium qui s'appelle Aurora. Ça, c'est un projet du DOD, de la Défense, qui s'appelle le projet Pelé. Il doit y avoir le Marvel qui est ici, qui a un petit micro-réacteur qui va démarrer en 2024 sur le site d'Idaho. Donc il y a une très bonne dynamique. Ce qui manque aux États-Unis, c'est la dynamique combustible. Ils n'ont plus d'usine de combustible uranium enrichi, d'HALEU. Ce qu'on appelle l'HALEU, c'est High Assay Low Enriched Uranium. C'est de l'uranium enrichi à 20%. En gros, plus le réacteur il est petit, plus c'est difficile de faire compact si on n'enrichit pas un peu plus. Une question géométrique de fuite de neutrons, sans vous faire de neutronique. Donc il faut enrichir plus en uranium, ou alors faire du plutonium. Mais aux États-Unis, le plutonium est toujours vu un peu comme quelque chose de proliférant, et donc il n'y a pas de concept au plutonium aux États-Unis. Et donc ils se rendent bien compte que c'est bien joli de mettre autant d'argent dans des concepts de réacteurs, mais il s'agirait de commencer à mettre de l'argent dans le renouvellement des usines du cycle pour avoir une fourniture. Donc aux États-Unis, ils réouvrent des mines d'uranium, ils reconstruisent des usines d'enrichissement, ils reconstruisent des usines de fabrication de combustible. De combustible classique, mais aussi de combustible ce qu'on appelle trisol, combustible des réacteurs HTR. Donc il y a une prise de conscience il y a 2 ans à peu près. Mais au début, c'était Voilà, c'était que les réacteurs. Donc, moi, mon pronostic, c'est qu'en France, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on a mis 1 milliard d'euros, 500 millions sur New World, 500 millions dans l'appel à projet pour que des gens comme moi fassent des PowerPoint et commencent à réfléchir au truc. Si on ne met pas au moins autant dans le renouvellement des usines du cycle et dans faire de peut-être de l'uranium comme ça, faire du triso, faire du MOX RNR, faire plus de MOX pour les REP, etc., ça n'arrivera pas, quoi. Donc je pense que cette prise de conscience, elle va arriver... Il y a des conseils de politique nucléaire dans l'année là-dessus, et je pense qu'on va changer de braquet, j'espère, aussi sur le sujet. Mais aux États-Unis, ils ont commencé beaucoup par les réacteurs en se disant qu'est-ce qu'on met dans nos réacteurs. Canada, c'est un pays qui se débrouille très bien, qui est très intéressant, parce que la dynamique privée-publique est assez bien faite, et puis il y a un aspect très régional au Canada, où c'est l'État fédéral, mais aussi les régions. Et je pense que c'est dans ce pays-là qu'on verra le plus de réalisations de tout type. Je pense que Ontario Power Generation, sur son site de Darlington, a choisi le concept de GE, là, qui est un petit réacteur bouillant. Je pense qu'eux, ils vont construire ce truc-là, ça c'est clair. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le New Brunswick aussi, il y a ARC, ça c'est du sodium. Il y a aussi USNC, qui est un micro-réacteur de HTR, qui a annoncé une construction en 2026 sur le site de Chalk River. Donc ils font moins de bruit que les Américains, mais je pense qu'eux, ils vont aller au bout. Ils ont pris les choses vraiment dans le bon ordre, aussi avec un appel à projet, mais ils ont mis de l'argent dans leur autorité de sûreté pour leur dire accompagner aussi ce mouvement. Les universités sont dedans, les régions gèrent le truc politiquement. Enfin, un très bon exemple à suivre, je pense, le Canada. La Chine, c'est très différent, ils font tout. Donc c'est bien simple, hein, ils font des REP à la chaîne, mais ils font aussi toutes les filières Gen 4. Ils construisent un réacteur à sel fondu dans le désert de Gobi. Ils ont démarré deux petits HTR fin 2021, c'est quand même 200 MW électriques en tout, avec combustible triso. Ils avaient racheté les brevets des Allemands, voilà, c'est les Allemands. Ils ont aussi un SMR REP, ils ont 5 concepts de SMR REP en concurrence, on va dire, dans les compagnies nationales. Et le premier, là, près de Hainan, l'ACP100, voilà, la construction, elle est quand même déjà démarrée, un peu avancée. Donc, ils font tout, et donc ça reste assez impressionnant. La locomotive, ça reste les REP de puissance, hein. Eux, ils ont besoin de tout, quoi. C'est-à-dire que même s'ils font plein de REP et tout ça, ils démarrent encore des centrales à charbon parce qu'ils ont des besoins assez énormes. Néanmoins, il se passe beaucoup de choses en Chine et ils nous ont largement rattrapés sur l'innovation en 20 ans. À force que nous, on ne fasse plus grand-chose. UK, donc en Angleterre, c'est un pays aussi assez intéressant, un peu comme le Canada, qui a fait un appel à projet assez bien fait. Ils ont mis de l'argent dans leur autorité de sûreté. C'est pas mal. Donc ils ont le concept de Rolls-Royce, qui est un concept SMR REP assez gros, 470 MW électriques. Donc on est sur du petit REP de puissance plutôt que sur du SMR. Voilà, bon, ils continuent les projets HPC et Sizewell. Et puis ils regardent aussi d'autres choses que le REP. Ils regardent les HTR, ils regardent la fusion. Ils vont regarder Nucléo aussi, les rapides au plomb. Et on va essayer de les faire s'intéresser aussi à Exana, bien sûr. Un pays aussi, une approche très pragmatique, je pense qu'il pourra déboucher, on verra des réalisations en UK. Donc dans les autres pays, bon, la Russie, ils font des SMR sur barge. Le plus connu, c'est l'Académie Lomonosov qui a été le premier là, il y a 2017, mais ils en ont fait plusieurs depuis. Donc en fait, c'est la même technologie que leur brise-glace nucléaire, sauf que le réacteur, ils l'amènent sur barge et puis ils le mettent au port à Mourmansk, enfin tous les ports de l'Arctique, là, pour alimenter des mines. Voilà, ils n'ont pas de volonté d'export de ce genre de choses, mais ça existe et ça marche et c'est la catégorie SMR. En Europe, il y a plein d'initiatives à droite à gauche, c'est encore assez timide. Et surtout, les pays de l'Europe de l'Est, ils prennent contact avec les vendeurs US, quoi. C'est le terrain de jeu de Westinghouse, c'est le terrain de jeu de NuScale, c'est le terrain de jeu des Sud-Coréens. Et donc, on a du mal à avoir une Europe un peu souveraine, un peu stratégique sur le sujet. C'est encore un peu chacun dans son coin. Donc ça, c'est vraiment un défaut encore. L'Europe, elle peut se rêver en puissance, mais si elle veut faire ça, il ne faut pas faire tout ça, quoi. C'est évident. En France, le projet Nuwar, des études au CEA, des start-up, ça j'en parlerai un peu après. Hors Chine, au Japon, ils relancent le nucléaire, mais le Japon nous dit très régulièrement, nous on est une île densément peuplée, on a des montagnes, on a des côtes, en gros on n'a pas de place pour multiplier les sites nucléaires, donc les sites qu'on a, on met de la grosse puissance. parce qu'on n'a pas assez de place pour s'amuser à ça. Donc l'ASMR, ça ne les intéresse pas. Les Sud-Coréens, eux, ils redémarrent le nucléaire. Hein, ils ont eu un président anti-nucléaire pendant 4 ans. Il s'est fait virer, enfin, il ne s'est pas fait réélire. Un président pro-nucléaire est arrivé, donc il se relance avec plutôt une dynamique aussi portée par l'export. Beaucoup par l'export, les Coréens, ils sont assez forts là-dessus. Voilà, le combustible dans tout ça. Bon, tant que c'était le début, bah, personne n'en parlait du combustible. Ensuite arrive la phase de prise de conscience. Ah, faut vraiment que je construise un réacteur. Ah, il y a vraiment des gens qui m'ont donné 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros pour faire des choses. Donc, alerte, comment on fait ? Donc, il y a de l'argent qui va dans des usines. Aux États-Unis, on commence à voir un peu des gens qui se rassemblent, qui ont le même combustible ou des mêmes caractéristiques et qui se disent bah, on va investir dans une usine en commun. On fait une co-entreprise, une joint venture, et puis on se construit une usine à nous, quoi. Ça marche. Peut-être qu'en France, on y viendra aussi, j'en sais rien. Voilà, DOE commence les investissements, mais pas encore à hauteur des besoins. Il y a eu pas mal de choses dans l'Inflation Reduction Act. Et donc tout ça, là, tout ce qui est écrit là-dessus, ce sera un chemin critique, il y a une prise de conscience, etc. Bah, on va l'avoir chez nous aussi. Il faut qu'on l'ait, parce qu'on n'est pas prêt encore, clairement. Voilà, ça c'est une dernière représentation pour montrer un peu ceux qui avancent ou pas, et puis un peu les drapeaux des pays. Quand on est une start-up comme ça, enfin une société qui développe un réacteur, un truc facile c'est de faire ça, quoi, c'est de faire un MOU, un Memorandum of Understanding, trouver des gens qui sont à peu près d'accord avec nous, on signe un truc, on communique là-dessus. Donc ça c'est facile à faire, donc tout le monde le fait beaucoup, ça permet de communiquer, etc. Ça ne veut pas dire que tous ces gens vont construire des réacteurs partout, hein. New World, on est très fort aussi là-dessus. Je ne suis pas sûr que vous saviez que New World a signé un MOU avec le Ghana ou le Kazakhstan, mais oui, on fait ce genre de choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui ont la case FOC, First of a Kind. Et là, les seuls qui ont ça, c'est G, avec le concept bouillant BWRX300, au Canada, avec OPG. Et donc, quand je disais, je pense que ça va être les premiers à construire, j'en suis un peu près sûr. Et en plus, ce concept-là me semble le mieux, enfin, en termes de REP, sûrement le moins cher de tous. Ça doit sûrement être moins cher qu'un New World. Et donc, je pense que si ça marche, il y a des chances qu'ils remportent un peu le marché parce qu'ils vont arriver en premier, ils vont avoir des coûts quand même raisonnables, ils vont pas dans un pays trop à la con pour démarrer, donc c'est assez crédible. Voilà. Un petit peu de Rex de panorama sur des premiers accros. Si tout n'a pas été rose, on commence à avoir un peu des premiers échecs. Il y en a un qui est assez intéressant, c'est Transatomic. Transatomic, ça a été des premiers à se lancer vers 2011, je crois. Concept brillant de réacteur au sel fondu par des étudiants du MIT avec leurs professeurs. Beaucoup d'argent qui y va parce que c'était les premiers, ça paraissait génial. Superbe site internet, etc. Et en fait, les calculs sont faux. Et donc, le réacteur ne marche pas. Et donc, ils ont cramé de l'argent, ils ont eu de l'argent public, etc. Et puis, tout ça s'est écroulé. Ils avaient prévu un réacteur 520 MW MSR en 2020. Bon, ben voilà, tout ça n'a pas eu lieu. Et pourtant, ils avaient de l'argent. Donc, faut quand même que les concepts y marchent. Faut pas raconter n'importe quoi et pas juste raconter n'importe quoi pour avoir de l'argent. Des changements un peu de régulation. TerraPower, au début, voulait s'associer avec la Chine, hein, à une époque où les Américains et les Chinois voulaient faire des choses ensemble. Volteface, d'abord avec les Chinois, puis Trump, machin. Donc, ben voilà, on change tous nos plans, on récupère nos billes, l'API, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Voilà. L'achat LEU, donc la fin de la possibilité russe pour se fournir en combustible. TerraPower, quand même, Bill Gates, il a beau avoir des milliards de dollars, quand il veut du combustible pour Natrium, c'était Tenex en Russie qui devait lui fournir, quoi. Donc à partir de février 2022, branle-bas de combat, j'ai plus de fournisseur de combustible, quoi. Et donc, bon, voilà. Donc ça, c'est le combustible, ce sera le nerf de la guerre. Oklo, eux, ce qu'a été, ils ont eu une lettre assez sèche de la NRC, donc l'autorité de sûreté américaine, sur leur réacteur, micro-réacteur Aurora, pour dire que leur dossier tenait pas la route, qu'il manquait plein de choses, etc. Et donc, les lettres de la NRC, c'est public, comme les lettres de l'ASN. Donc c'est vrai que pour des sociétés privées, ça fait très mal, ils perdent leurs investisseurs. Alors ils ne sont pas découragés, ils continuent, mais voilà, la route est semée d'embûches, j'en ai cité quelques-unes, mais tout le monde va en avoir, et c'est la vie. Voilà, alors le cas de la France, qu'est-ce qui se passe en France ? Il y a un programme sur les SMR, donc SMR AO. un programme en deux parties. Une première grosse partie qui est Leadership EDF, qui est le réacteur Nouard, et puis une partie plus R&D au CEA sur l'innovation dans les usages, c'est-à-dire on regarde qu'est-ce qu'un SMREP pourrait faire de plus que de l'électricité, de la cogénération, de l'hydrogène, etc. Sur les parties AMR, et donc ça c'est ce dont je me suis occupé là pendant 4 ans, on travaillait que sur le neutron rapide. On dit si on veut des réacteurs vraiment qui fassent autre chose que le REP, c'est pour le combustible, c'est pour le neutron rapide. Donc sur le réacteur sodium, on avait deux esquisses, une très innovante qui s'appelait Atrium, une autre qui s'appelait Anaïs, un peu plus classique. Exana est tiré d'un mix des deux, on va dire. Et puis sur le Molten Salt, on avait une esquisse qui s'appelait Aramis, et Stellaria reprend deux, trois choses de ce truc-là. On a aussi un gros projet, enfin 26 millions d'euros, qui s'appelait Isaac, là, où on regarde la transmutation des actines mineures dans un réacteur à Molten Salt. Ça, c'est financé par le plan de relance. Et donc, et puis la nouveauté, bah, c'est ça, c'est les 500 millions pour l'innovation dans le réacteur, avec le CEA qui accompagnera les start-up, qui a un rôle vraiment d'accompagnement et un peu agnostique, hein, de ne pas choisir la techno, mais aussi SMRA des concepts de réacteurs et de cas d'usage, et bah, ça j'en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc Nouard, donc, c'est un projet industriel, c'est deux REP de troisième génération, enfin des REP de 170 MW électriques, donc couplés dans un même bâtiment réacteur. Une conception qui se veut simple, modulaire, avec des choses sur étagère et quelques innovations bien ciblées comme les échangeurs à plaques de mémoire. Et donc c'est un projet qui associe toute la filière, enfin tous les gros. Hein. La société Nouard, je crois, existe depuis quelques mois. Capital 100% EDF, Leadership 100% EDF, mais voilà, CEA, Naval Group, TA et Framatome participent au projet. Voilà, donc c'est par rapport à un EPR où les composants sont à l'intérieur. Là, on a des composants un peu comme dans les sous-marins, les GV doivent être au-dessus, etc. Un réacteur intégré qui est dans une enceinte métallique intégrée dans un bassin d'eau. Donc ça, l'intérêt, c'est de la passivité, quoi. C'est-à-dire que plus c'est petit, plus on cherche à se dire si on n'a pas d'électricité, on a de quoi évacuer la puissance résiduelle. Donc une installation dans un îlot nucléaire qui comprend donc deux réacteurs de 70 MW électriques. Donc c'est quand même assez gros à la fin, hein, 2 x 170. Et le but de Nouard, hein, c'est l'export pour aller remplacer les centrales à charbon dans le monde. Il y a, je crois, 400 centrales à charbon de 300 MW à remplacer dans le monde avant 2040. Donc ça, c'est le marché de Nouard. Je pense qu'il vise quand même une tête de série en France pour pas reproduire l'exemple de l'EPR finlandais, enfin commencer chez soi avant d'exporter. J'aurais peut-être la question de savoir c'est quoi le site de Nouard, je ne sais pas. J'imagine un site EDF, ce serait le plus simple, mais je ne sais pas. Sur les plus petits réacteurs sodium ou les plus petits réacteurs rapides, l'analyse qu'on peut en faire vraiment à grosse maille, c'est que sur la sûreté, c'est plutôt bien. Quand on réduit la puissance, on réduit les problèmes de sûreté. C'est moins de puissance résiduelle à évacuer après l'arrêt du réacteur. On peut plus facilement faire du bon comportement naturel, c'est-à-dire de la convection naturelle, fonctionner sans électricité, sans eau. Et puis l'accident grave, bah, une fois que le cœur est fondu, il y a quand même moins de matière à gérer et c'est quand même plus simple. Donc on coche tout, c'est plutôt bien pour la sûreté de faire des petits réacteurs. Pour l'aspect fermeture du cycle, il y a quand même un warning, quoi. C'est-à-dire que si le réacteur il est trop petit, l'économie de neutrons, enfin de la neutronique, c'est l'économie de neutrons, on a envie que les neutrons ils restent dans le cœur à faire des fissions et de l'énergie plutôt qu'ils partent du cœur. Et donc bah, plus le cœur il est petit, plus on a un rapport volume sur surface de fuite qui est défavorable. Et donc on utilise plus un cœur est petit, moins on utilise bien le combustible. Et donc il faut veiller à ne pas faire trop petit, quoi. Et puis aussi si on a un réacteur avec juste du plutonium, si on fait vraiment un tout petit réacteur, on est obligé d'avoir quand même des teneurs en plutonium qui vont après vers des 40%, 45%, et ça c'est des combustibles qu'on sait fabriquer, qu'on ne sait pas forcément bien retraiter, etc. Donc notre conclusion, c'est qu'il ne faut pas faire des réacteurs sodium trop petits, sinon ça ne sert à rien pour le cycle du combustible. Et la limite, c'est 300, 400, 500 MW dans ces zones. Et puis sur l'économie, bah, on sent qu'on peut simplifier des choses. Est-ce que c'est suffisant pour battre l'effet d'échelle? J'en sais rien. Là, vous voyez ce qu'il y a à atteindre. Hein. En noir, c'est Superphénix, cathédrale du climat, 21 mètres de diamètre. Formidable objet, mais voilà. Astrid de 600 MW électrique, ça faisait 16 mètres de diamètre en vert. Le New Astrid de 400 MW, il faisait 12 mètres de diamètre. Et l'objectif d'un AMR, d'un petit réacteur, ce serait d'arriver à 9 mètres pour pouvoir être transportable typiquement d'une usine située à Saint-Marcel, la Saône, on arrive à Fos et on va partout dans le monde en péniche. Et donc on a des critères sur la transportabilité des cuves. Et donc voilà, et là-dedans, il faut faire rentrer le même type de système qu'il y avait dans le gros. Donc il y a quand même une réflexion à avoir et qu'on va porter dans Exana pour compacifier un peu ces réacteurs. Les molten salt, pourquoi on s'est intéressé au molten salt en France, au sel fondu? Avant tout pour le molten salt rapide, l'utilisation du plutonium, la transmutation des actines mineures. Il y a beaucoup d'avantages potentiels en sûreté. On ne trouve pas d'accident énergétique. On ne trouve pas vraiment la notion d'un accident qui ferait un dégagement d'énergie, comme la fusion des réacteurs en combustible solide. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et par contre, il y a des verrous assez énormes hein, sur la chimie du sel, sur les matériaux. On a la sainte trinité des problèmes des matériaux. On a de la corrosion, de la haute température et de l'irradiation au même endroit. Souvent, dans le nucléaire, on a 2 sur 3 à différents endroits. On a rarement les 3 au même endroit. Ben là, on a les 3 au même endroit. Et donc, globalement, on n'a pas de matériaux. Et donc, il faut faire de la recherche pour trouver des matériaux. Mais ça nous a semblé, après la fin d'Astrid, ça nous a semblé intéressant au CEA de regarder ces sujets-là. Orano aussi avait un intérêt pour le MSR, pour regarder un peu la capacité à utiliser le PU là-dedans. Donc le sel choisi, enfin, une fois qu'on dit on fait des sels fondus, on n'a rien dit, parce que des sels fondus, on peut en faire des palanquets. C'est un réacteur dont la neutronique, ça marche très bien, donc c'est souvent des réacteurs de neutroniciens, c'est facile d'en designer, et c'est rarement des réacteurs de chimistes. Et à la fin, ce qu'on a choisi en France, en tout cas, c'est de développer les réacteurs chlorure. Donc, c'est du NaCl, du sel de table, avec du chlorure de plutonium. Le tout fondu à 500 degrés. On fait un cylindre et en fait, ça marche. La neutronique, ça marche. On arrive à faire des fissions avec ça. On peut rajouter d'autres choses. Hein. On peut rajouter du chlorure d'américium si on veut faire de la transmutation, du chlorure d'uranium si on veut faire un réacteur isogénérateur. Donc, il y a plein de choses à regarder. Mais à la fin, c'est plutôt ce qui est choisi en France. Mais par contre, bah ça n'a jamais été réalisé, ni avec des sels chlorure, ni en spectro rapide, ni avec du plutonium, ni avec du retraitement. Donc il y a tout à faire, c'est l'innovation de rupture. Et Stellaria, donc une autre start-up SME du CEA, va vouloir développer ce concept-là, qui est finalement pour un ingénieur passionnant, pour un financier intéressant, parce que c'est l'innovation de rupture. On sent que si tout ça marche, ça peut disrupter un peu le marché, donc ça intéresse les gens. Par contre, pour les gens qui sont chimistes ou de la science des matériaux, c'est sauf qui peut, quoi. Donc on verra ce qu'on arrive à faire, c'est de la R&D passionnante en tout cas. Alors l'appel à projet France 2030, c'est déjà une histoire qui remonte à octobre 2021 avec l'annonce de France 2030, 10 thèmes dont l'énergie. Il y a eu cette phrase, hein. Faire émerger en France d'ici à 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Donc c'est vrai que quand ça s'est sorti, on s'est dit, bon, on était dans le vrai depuis 2019, on y travaillait un peu. Il y a eu le discours de Belfort, reprendre en main notre destin énergétique, l'appel à projet qui sort en mars et qui sera clôturé dans un mois environ, fin juin. Donc il y a 3 phases dans cet appel à projet. Le but, c'est de faire émerger de nouveaux acteurs. Ce n'est pas un appel à projet pour Framatome, ce n'est pas un appel à projet pour EDF, ce n'est pas un appel à projet pour le CEA, ce n'est pas un appel à projet pour Technique Atome, c'est un appel à projet pour faire émerger de nouvelles sociétés. Et ça, c'est dans le cahier des charges de l'appel à projet. Soutien possible du CEA lors de la préparation de dossiers de candidature. Le CEA n'a pas souhaité être dans le système d'évaluation des projets, parce que le CEA avait bien en tête quand même de se dire on pourrait peut-être essaimer des concepts et créer nous-mêmes, mettre des gens pour créer des sociétés. Donc on ne peut pas être jugé parti, donc le CEA ne va pas juger les dossiers de cet appel à projet. Donc les 3 phases, première phase où on peut avoir jusqu'à 10 millions d'euros de BPI, phase de maturation, phase preuve de concept jusqu'à 80 millions d'euros sur 3 ans, et une phase avec 300 millions d'euros. Donc il y a 500 millions d'euros en tout, donc je vous laisse faire le calcul, il y aura un lauréat pour ici, peut-être 2 ici, et ici, parfois on entend qu'ils vont prendre tout le monde, parce que pour pas choisir, mais voilà, il y aura quand même pas mal de lauréats, on pense, en première phase. Donc les quelques startups un peu connues, ces 4-là, parce qu'elles sont créées depuis 2021 ou 2022, donc elles ont suivi ça, et puis on sent que l'État a envie de les aider, quoi. Donc Transmutex sur de la transmutation. Nucleo, c'est un réacteur rapide plomb développé par les Italiens. Narea, c'est un micro-réacteur sel fondu français. Et Jimmy, c'est un micro-réacteur HTR, donc gaz haute température. Donc des plannings et des verrous technologiques qui questionnent. Tout le monde a un discours très pushy en disant on va faire des réacteurs en 2024. En 6 mois, je fais un jumeau numérique. Les 6 mois d'après, je fais un dossier de sûreté. Les 6 mois d'après, je construis. Donc je pense que ça, c'est une version un peu naïve du début. Je pense qu'ils sont quand même en train de retravailler leurs choses et ça se crédibilise un petit peu. Mais voilà. Celle créée en 2023, donc Exana, Stellaria, ça, Renaissance Fusion, ça, c'est des startups étrangères qui ont créé des succursales en France. Donc ce qui s'est passé au CEA, en fait, c'est quand il y a eu l'appel à projet, il y a eu un concours d'idées internes avec 11 projets innovants qui ont été présentés en mars 2022, dont Exana et Stellaria. Finalement, il y a 5 projets qui vont être essaimés. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ils ont été présentés hier à Paris. Et je vais vous les donner dans ce tableau-là. Donc voilà les postulants à France 2030, tels que moi j'ai ma petite liste perso, mais la plupart ont déjà communiqué publiquement, donc il y a quasiment que de l'info publique là-dedans, quoi. Donc voilà, les 4 premiers ont postulé, ils ont déposé leur dossier il y a déjà plus d'un an, ils n'ont pas encore la réponse. Il y a de la fusion, hein, l'appel à projet, il concerne aussi la fusion. Donc Renaissance Fusion, c'est une start-up qui est à Grenoble, française, qui développe le Stellarator. Et ils ont pas mal d'argent, ils ont levé 30 millions, donc ils ont des équipes qui grossissent. Next Engineering, c'est du réacteur plomb avec des brevets Westinghouse, et c'est des gens issus plutôt d'Alstom, Grenoble, Belfort, Grenoble c'était ceux d'avant. Calogena, c'est du REP calogène, ils sont sortis dans la presse la semaine dernière, donc je peux en parler. Donc ça, c'est du REP uniquement calogène, qui ne fait pas d'électricité, hein, pour les réseaux de chaleur, etc. Stellaria, donc j'en ai parlé un peu, du réacteur MSR, donc sel fondu, sel chlorure, spectre rapide. Exana, bon bah j'en parlerai après. Blue Capsule, c'est un réacteur à haute température sodium, spectre thermique. Otrera, c'est aussi un réacteur sodium rapide. Arkeos, donc les 5 là, elles sont issues du CEA. Avec des gens du CEA qui sont porteurs et fondateurs de la société. Et Arkeos, c'est aussi du REP calogène. Après, en bleu, j'ai mis les 3 qui ont créé des filiales en France pour postuler. Donc, Thorizon, qui est du sel fondu avec du thorium, ils sont aux Pays-Bas. Et ils ont créé une filiale à Lille très récemment pour postuler. Je ne sais pas s'ils seront dans les temps pour leur dossier, mais bon, ils ont l'intention. USNC, donc ça, USNC, ça c'est un candidat sérieux, hein, c'est du HTR, ça fait longtemps qu'ils sont déjà quasiment en train de construire au Canada. Et c'est aussi c'est concurrent direct de Jimmy, hein, ce même genre de concept. Et il y a aussi un concept de fusion Marvel, c'est des Allemands qui sont en train de venir pour l'appel à projet. Il y a peut-être d'autres concepts fusion qui sont en train d'arriver, mais souvent les gens, ils veulent développer de la brique techno, alors que l'appel à projet, c'est pour développer une solution réacteur. Donc voilà, ça fait, ça fait peut-être une quinzaine de projets. Tout le monde n'aura pas 10 millions d'euros, sinon il n'y a plus d'argent pour la suite. Mais on peut estimer peut-être que la moitié vont être lauréats par la BPI. Donc dans cet appel à projet, la BPI te donne de l'argent que si tu lèves au moins l'équivalent. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 millions d'euros si tu as levé 10 millions d'argent privé à minima. C'est du 1 pour 1. Voilà, donc en conclusion, les réacteurs avancés, on voit bien que ça peut bien compléter l'offre française pour atteindre nos objectifs de souveraineté de décarbonation. La souveraineté énergétique et industrielle, moi je la prends au sens large, je pourrais en parler un peu pour Exana, au-delà des aspects combustibles, uranium, quelle durabilité des technos de réacteurs en termes de, est-ce qu'on a des matériaux critiques? Est-ce que quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est pas des réacteurs qui font trop de déchets? Ou on a des déchets sans exutoire? Pour les gens qui font des réacteurs avec du graphite, on peut se poser la question. La sûreté, évidemment, la flexibilité, la haute température pour faire de l'hydrogène, des e-fuels, etc. Donc ça, c'est le sujet qui monte, hein, au-delà de l'électricité, quel apport du nucléaire pour la décarbonation profonde de nos sociétés. Et puis, c'est quand même un requin d'attractivité de la filière nucléaire. Quand on a commencé à travailler sur les MSR au CEA, les premières thèses, on avait 40 CV. Alors qu'au CEA, des fois, il y a des thèses, hein, zéro candidature. Hein. Les sujets, ils sont plus ou moins sexy. Un sujet de thèse au CEA sur réacteur sel fondu, réacteur pour le spatial, on est à 40-50 candidats, et donc ça permet de prendre des très bons, et c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement quand on propose de l'innovation qui est assez intéressant vers les jeunes. des verrous à surmonter, il y en a plein. Voilà. Puis la conclusion pour le CEA, bah, effectivement, il y a une course mondiale à l'innovation de rupture. Bah, le CEA, bah, il accompagne l'industrie, il propose des choses, mais il a aussi une, il a encore, j'espère, une mission un peu régalienne de conseil des pouvoirs publics pour qu'on aille quand même dans le bon sens et qu'on se disperse pas trop. Voilà. Voilà, c'est la fin. J'ai toujours des petits mèmes pour finir. Et on peut prendre quelques questions. Je suis peut-être un peu long. Voilà.
Qui veut se lancer? Je sens un silence pesant, parce que c'est très dense, effectivement, il faut capter tout ça. Hein.
Donc,
ce que je vous propose, sinon vous réfléchissez hein. Pour la deuxième question, ouais. Et on passe tout de suite à Xana. On fait ça? Donc, oui, ah, il y a une question.
Oui, comment le CEA gère le conflit d'intérêts entre l'essaimage des sociétés et son rôle de conseil auprès de l'État?
C'est une excellente question. Donc le CEA, dès le début, a dit « je ne veux pas juger les dossiers ». Très bien. Parce que je me prépare à essaimer des choses et donc on va dire « si je juge les dossiers, forcément je vais prendre Xana et Stellaria et puis je ne vais pas prendre les autres ». Donc ça, c'était une première position du CEA. Qui a tenu jusqu'à très récemment où au final la BPI s'est auto-jugée incompétente pour juger les dossiers sur le fond, à part sur le modèle économique. Donc ils ont créé un comité d'experts de gens indépendants du CEA, mais il fallait quand même que ce soit des gens qui connaissent un peu le nucléaire, etc. Et ils sentent bien quand même, enfin l'État sent bien qu'il y a besoin du CEA pour juger un peu les dossiers. Donc le CEA est en train de se réorganiser et de créer une petite cellule de gens directement rattachés à la direction générale pour quand même donner un avis à l'État complémentaire de ce comité d'experts sur les dossiers. Après, quand on dit start-up SME du CEA, c'est le capital, il n'est pas qu'au CEA. Le CEA, il met un peu d'argent au début pour lancer le truc, mais c'est pas son... Enfin, déjà, le CEA, il n'a pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Donc, assez vite, la start-up, elle est quand même indépendante du CEA. C'est-à-dire qu'on est cofondateur du CEA. On est aidé au début, là, en ce moment. C'est-à-dire que je suis à 100% sur mon projet Xana et pourtant je suis quand même payé par le CEA jusqu'en septembre. C'est plutôt pas mal quoi, quand on essaie une start-up. Mais à la fin, assez vite, la start-up, elle a sa liberté d'action. On a un message très clair de notre directeur des énergies, Philippe Storr, qui dit « Préparez-vous à ce qu'on ne soit pas d'accord tout le temps. » Et on va s'engueuler et on ne sera pas d'accord, etc. Et ça arrivera. Donc c'est normal. À un moment, si on veut attirer de l'argent privé dans le nucléaire, il faut faire des sociétés privées de plein droit qui ont leur liberté d'action et qui ne sont pas des sous-projets de CEA, des sous-projets de Framatome, etc. Sinon, il y aura zéro argent privé dans le nucléaire. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, on est un peu sur cette corde raide. Effectivement, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le DOE, avant ses appels à projets, avait déjà pris un peu le pli de plus avoir d'avis, quoi. Alors, c'est vrai, c'est un peu difficile. On aime bien, enfin, c'est 60 ans qu'on donne notre avis sur le nucléaire, qu'on aide l'État. Quand on nous dit, maintenant vous n'avez plus d'avis et vous aidez tout le monde, ça fait un peu bizarre. Mais le DOE, c'est déjà ce qu'ils font. Moi, à chaque fois que j'ai le DOE aux États-Unis, je leur pose la question, mais quand même, vous préférez le sodium ou le plomb? Vous préférez les sels chlorés ou les sels fluorés? On est payé pour ne pas avoir d'avis et on est payé pour qu'un maximum de projets réussissent. Et ça, c'est en train de devenir le rôle que l'État veut faire jouer au CEA. Aider tout le monde pour qu'un maximum de projets réussissent. Donc, voilà un peu où on en est. C'est pas encore totalement stabilisé. Je pense que pour se simplifier la vie, l'État, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un maximum de gens dans la première phase pour qu'il n'y ait pas de déçus. Et il va essayer de se mettre un process un peu plus transparent, un peu plus clair, de sélection sur la deuxième phase à 80 millions, qui est la vraie phase où on démarre, quoi. Ça, c'est mon sentiment. Mais c'est vrai que la question de est-ce que le CEA s'autorise à essaimer un truc comme Xana, ça fait 2 ans qu'on y réfléchit et ça s'est décidé au début janvier en disant bon, allez, on y va. Quoi. Je continue.
On passe à Xana ?
Ouais. Tu l'avais. Donc je me mue en start-upper. Le modèle start-up, en fait, il a quand même bien marché dans la fusion aux États-Unis, en Angleterre, pour quand même réattirer beaucoup d'argent dans les concepts nucléaires. Et donc, je pense que ça a été ça l'enjeu, c'est de dire c'est des choses très capitalistiques, c'est de la deep tech, ça arrive à long terme. Pourquoi pas le modèle start-up, qui a bien marché dans le spatial aussi. Donc, on ne sait pas si ça va marcher. Hein. Peut-être que tout le tableau là que je vous ai mis, on se revoit dans 5 ou 10 ans. Bullshit, 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 faillite, enfin, etc. Hein, peut-être. On peut espérer qu'il y en a qui réussissent quand même. Alors, Exana. Exana, ça part d'un constat. C'est le constat de notre addiction aux combustibles fossiles, mondialement. Avec un chiffre qui nous a beaucoup marqué avec mon cofondateur Sylvain, c'est 80%. Donc 80%, c'est la part des combustibles fossiles dans la consommation d'énergie finale primaire, actuellement. Et en fait, ce chiffre, il ne bouge pas. C'était déjà, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 200 ans, c'était déjà ça. Et donc, on ne fait pas de progrès. C'est faux de dire qu'on progresse. C'est-à-dire qu'on progresse un peu, mais comme les consommations augmentent, bah en fait, non, on ne progresse pas. Et on a toujours 80% de combustibles fossiles. Donc il faut aller plus loin, il faut aller vers plus d'énergie décarbonée et il faut le faire durablement. Donc voilà, si vous êtes allé sur notre site, notre slogan, production souveraine d'énergie décarbonée. Les solutions de décarbonation, elles ne sont pas à l'échelle. Pourquoi elles ne sont pas à l'échelle, malgré les progrès des renouvelables? Parce que les besoins, ils sont gigantesques. Et les besoins, ils ne concernent pas que de l'électricité. Si on pense aux industries énergo-intensives, la chimie, le ciment, l'acier, rien que ces trois choses qui sont fondamentales, hein, c'est nos vies, hein. C'est la construction, c'est la nourriture et c'est les voitures, enfin ouais, tout. Donc ça, c'est 30 000 TWh, donc 60 fois la consommation de la France, qu'ils ont à trouver comme énergie décarbonée d'ici 2050. C'est ce qu'ils consomment en fossiles. Donc c'est colossal. Et donc les gros sites industriels, on ne les décarbonne pas avec trois éoliennes et des panneaux solaires. Enfin, vous allez à Fos, vous allez n'importe où dans le monde, ces gros sites-là, ils ont un besoin massif d'énergie. Il y a quand même beaucoup de renouvelables qui servent quand même à décarboner les mix électriques, mais plus on en a, plus on a besoin de flexibilité pour la sécurité du réseau. Et rien qu'en Europe, on estime à un nouveau besoin de 400 à 700 gigawatts de nouvelles capacités flexibles suite à l'essor des renouvelables, à la fermeture des centrales thermiques. Et donc l'autre question qu'on s'est posée dans Exana, mais c'est est-ce qu'on peut faire ça finalement avec des REP, assurer de la très forte flexibilité et comment faire? Et puis la troisième question, c'est la question plus classique de la souveraineté énergétique, comment on valorise les combustibles usés, comment on réduit les déchets, comment on réduit notre dépendance à l'étranger. Avec, on peut donner ce chiffre, hein, 60 000 tonnes de combustibles usés en Europe qui sont entreposées. Donc si on n'en fait rien, bah, on n'en fait rien, c'est un problème pour les sociétés. Si on a des réacteurs à neutrons rapides, vous l'avez compris, ça c'est un tas d'or. C'est un tas d'or souverain qui existe, qui attend juste à être valorisé. Donc voilà, c'est un peu ces constats-là. Si on rentre un peu dans la décarbonation, on se rend compte que les émissions de CO2, elles se concentrent dans 5 secteurs industriels uniquement. C'est la sidérurgie, c'est la production électrique de pointe, donc en France, hein, toutes les centrales à gaz qui nous restent, du Cordemais, du Bouchain, du NG, enfin Saint-Avold, ce qu'on veut. C'est les raffineries, c'est le ciment et c'est la chimie lourde, on va dire l'ammoniac, les engrais. Et donc ça, c'est 95% des émissions de CO2. C'est très localisé dans des clusters, hein, Fos, sud de Lyon, Seine-Maritime, le nord, Dunkerque. Et c'est un enjeu identifié. Hein, le président Macron, tous les 6 mois, convoque les 50 sites les plus pollueurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et pourtant, il ne se passe rien. Quoi. C'est-à-dire les émissions, elles ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas de solution. Pas de solution à l'échelle. Donc une des solutions, c'est d'amener une solution décarbonée au plus près des besoins, et donc la solution Exana, bien sûr, pour aller vers la décarbonation profonde du pays. Alors les marchés, parce qu'on est une start-up, donc on s'adresse à des marchés, les 3 plus grands marchés là-dedans, c'est les combustibles de synthèse. On estime, l'Europe dit 50% d'e-fuel, donc de fuel de synthèse fait à partir d'électricité, pour l'aviation d'ici 2050. Si on combine avec le secteur maritime, décarboner les porte-conteneurs, etc., on estime que c'est 1000 TWh par an de fuel de synthèse à faire pour 2050. L'acier, 350 TWh par an, l'ammoniac, 150 TWh par an. Donc ça, c'est des besoins gigantesques. Et pour tout ça, c'est des gens qui ont besoin d'électricité, mais aussi d'hydrogène et de chaleur à différents niveaux de température. Il y a d'autres marchés qui sont intéressants. La flexibilité, j'en ai parlé. Comment on remplace une centrale gaz qui fait de la pointe. Le dessalement, les besoins, x40 dans le monde, dessaler de l'eau de mer. La capture de CO2. On estime à 220 millions de tonnes de CO2 à capturer dans les rapports du GIEC. Et pour tout ça, comment on fait tout ça sans combustible fossile? On s'est posé la question et on s'est dit finalement, est-ce que nos bons vieux réacteurs Gen 4, qui en plus de faire de l'électricité, peuvent faire de l'hydrogène de façon assez intéressante et de la chaleur, peuvent adresser ces marchés-là? Et je pense que tout le monde se la pose un peu d'une façon différente dans les start-up. Il y en a beaucoup qui sont là que pour l'électricité, mais de plus en plus, on voit cette réflexion. Nous, on s'est dit, on met ça en haut de la pile, quoi. Et on se dit, si on fait des réacteurs sodium, c'est pour la fermeture du cycle, la souveraineté, mais c'est aussi pour aller décarboner tous ces industriels-là. Alors voilà, cette vision-là, elle est portée par une équipe de trois personnes. Donc Sylvain Nizou, qui est CEO de la société, il vient aussi du CEA, mais il vient pas du nucléaire. Il vient plutôt du monde des renouvelables, des batteries, et son dernier poste, il s'occupait de tout ce qui était capture de carbone, e-fuel, etc. Il avait une vision un peu de ce que c'était le marché de la décarbonation, les besoins des industriels. Et nous, on arrive, donc moi et Jean-Baptiste, on est de Cadarache, et plutôt avec une vision réacteur, bien sûr. On connaît, enfin voilà, moi, mon expérience, elle est purement réacteur sodium depuis 15 ans, depuis Phoenix jusqu'à Astrid, jusqu'au projet dont j'ai parlé avant. Donc on s'est lancé dans l'aventure tous les trois. Alors pourquoi le RNR sodium? On considère que c'est la seule technologie Gen 4 qui est assez mature pour pouvoir répondre dans le temps. Elle répond bien aux enjeux stratégiques et aux besoins des industriels. C'est de la haute température, c'est des forts rendements électriques, 42%. C'est une technologie acceptable qui est durable, on valorise les combustibles usés, on réduit les déchets. Il peut y avoir de la sûreté passive parce qu'un métal liquide, on peut le refroidir avec de l'air, on peut faire de la convection naturelle, tout ça c'est prouvé depuis Phoenix et Super Phoenix. Mais à la limite, ça, un réacteur plomb, il peut le dire. Un réacteur sel fondu, il peut le dire aussi. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est ça, c'est la maturité, la crédibilité de la filière. Une maturité qui a été acquise pendant 50 ans par EDF, CEA et Framatome, qui sont des partenaires d'Exana. Donc nous, Exana, on est très fiers de ce patrimoine, quelque part, scientifique et technique sur les réacteurs sodium qu'on veut faire fructifier. C'est une technologie connue des autorités de sûreté, on ne parle pas de la feuille blanche, en France, mais dans d'autres pays. Ça, c'est primordial par rapport à tout ce que je vous ai dit. On n'a pas besoin d'irradiation, on a des combustibles MOX qu'on connaît, qu'on sait fabriquer, on a des matériaux nucléaires qualifiés. Donc on peut démarrer un réacteur directement, on n'a pas besoin de réacteur expérimental, on n'a pas besoin de preuve de concept, on peut y retourner direct. Et puis en version petite puissance, c'est une implantation facilitée, c'est des réacteurs qui ont besoin notamment de moins d'eau qu'un réacteur sous pression. Et donc on peut aller sur plus de sites industriels. Alors voilà la longueur d'avance sur tous les autres concepts. Je l'ai dit, le retour d'expérience, c'est quand même 400 années cumulées de fonctionnement, les réacteurs à neutrons rapides sodium. Phoenix, Super Phoenix, c'est une fierté, c'est un Rex unique. On a encore beaucoup de records dans le monde des RNR qui sont liés à ces deux réalisations. Le combustible MOX, il est qualifié, fabricable et retraitable. On a retraité 27 tonnes de combustible MOX RNR en France, dans trois usines, à Marcoule et à La Hague. Donc c'est pas un verrou scientifique, même si des gens aimeraient bien dire qu'on ne fait pas des RNR parce qu'on ne s'est pas retraité. Non, c'est faux, on s'est retraité, on l'a fait. Les matériaux de gainage de structures qualifiées, on a aussi des codes de dimensionnement qui sont adaptés. Enfin, il y a un code qui s'appelle le RCCMRX pour les réacteurs expérimentaux qui inclut les réacteurs sodium. Et donc ça, vous savez mieux que moi à quel point c'est important d'avoir des codes de dimensionnement qui nous permettent de concevoir et puis de prouver un peu la fiabilité de ce qu'on fait. La simulation, on a des outils de simulation depuis 50 ans. Astrid, il y a eu un bond géant sur le renouveau de ces outils de simulation. Et puis le CEA, il est en pointe sur le sujet. Quand on se compare aux Américains, aux Russes, etc., aux Japonais, on est plutôt très bien placé sur les outils de simulation. Et donc tout ça, dans les 70 autres dont je vous ai parlé, là j'enlève ma casquette CEA parce que je suis obligé de me vendre un peu, qui a ça? Qui a ça? Personne, quoi. Et je pense qu'il n'y a que les réacteurs sodium en France qui ont tout ça. Sinon, il faut faire du REP. Les seuls mieux qui ont tout ça, c'est les REP. Voilà, donc 400 années cumulées de REX, hein, ça je vous mets toute la liste de tous les réacteurs à neutrons rapides qui ont fonctionné. On en parlait avec Camille tout à l'heure, EBR1, hein, c'est le premier réacteur qui a fait de l'électricité au monde, hein, à Idaho, hein, c'est un réacteur à neutrons rapides sodium. Phoenix, c'est 35 ans d'exploitation avec un héritage unique sur les matériaux, sur le combustible, sur les échangeurs, les pompes. On a encore beaucoup de records, notamment des records de longévité des échangeurs en sodium, 230 000 heures en sodium à 500 degrés. On sort les échangeurs, ils sont nickel, on se regarde dedans, c'est de l'inox. C'est, donc voilà, le sodium, c'est pas corrosif, ça se passe bien. Super Phoenix, le plus grand RNR sodium jamais conçu, construit, exploité et démantelé. Beaucoup en démantèlement, je pense qu'on est aussi le leader sur ce qu'on a fait à Super Phoenix. Un REX industriel unique, un KD de 96% lors de la dernière année de fonctionnement. C'était quand même 3,7 TWh d'électricité à 2 g de CO2 par kWh et on a fermé cet objet. Et puis Astrid, ça a été des compétences renouvelées dans les outils de calcul, hein, des marges de sûreté. Donc tout ça, on l'a, si on attend 50 ans pour en refaire, on l'a pu. Ça, c'est lié à des gens, et c'est lié à du REX récent. Les compétences, c'est pas que dans les livres, même s'il y a des livres intéressants sur le sujet. Et donc, si on fait rien maintenant, en fait, cet héritage, il disparaît, je pense. Et donc, moi, personnellement, c'est une de mes motivations pour aller dans Exana. C'est vraiment cette legacy, quoi. Il y a un mot encore plus fort en anglais, c'est legacy, c'est plus fort qu'héritage, je pense. Je pense qu'il faut se montrer un peu digne et pas le laisser tomber maintenant, quoi. Voilà, donc Exana plus particulièrement, triple innovation dans les usages de l'énergie. Donc je vous l'ai dit, on cherche à faire toutes ces applications de façon décarbonée, acier, etc. Toutes ces applications, elles ont besoin d'électricité de manière assez flexible et puis de chaleur à différents niveaux de température, jusqu'à 500 degrés, mais aussi des niveaux plus faibles. Qui peut le plus, peut le moins. Je pourrais expliquer pourquoi, si vous voulez. Et donc, Exana, un des premiers principes, c'est de fournir une solution un peu clé en main, intégrée à des industriels sur leurs besoins énergétiques. J'ai besoin de X% d'hydrogène, Y% d'électricité, Z% de chaleur, et ce, H24, ok, on est là, et on vous fait les briques de couplage, les systèmes de conversion qui vont bien. La production de l'énergie, on l'a fait par deux réacteurs modulaires, donc sodium, de 400 MW thermiques chacun, qui vont être couplés, un peu comme Nuward, hein, qui fait ses réacteurs deux par deux. Nous aussi, on va les faire deux par deux. Deux par deux, l'intérêt, c'est que quand on fait de la maintenance sur un, on continue à produire de l'énergie sur l'autre, et donc l'industriel derrière, il a toujours un flux de chaleur, par exemple, qui lui arrive. Et puis, une des innovations, c'est la flexibilité avec un module de stockage thermique de chaleur entre la partie nucléaire et la partie conventionnelle industrielle, qui va avoir plein d'intérêts. Un des premiers intérêts, c'est ce découplage entre une partie INB et une partie industrielle. L'industriel, il n'a pas envie d'être exploitant nucléaire, propriétaire d'une centrale. Il n'a pas envie de savoir ce qui s'y passe. Et donc ça permet de faire l'interface, c'est-à-dire qu'il n'a pas à savoir ce qui s'y passe. C'est avec ça qu'on va gérer la flexibilité, les appels de charge, avec le système de stockage thermique. Deuxième intérêt, la flexibilité de pouvoir accompagner des montées en charge. Quand l'industriel il a moins besoin de chaleur, on stocke de la chaleur ici en attendant qu'il en ait plus besoin ou des choses comme ça. Si on fait que de l'électricité, on peut faire jusqu'à 20% de puissance nominale par minute de variation avec ces systèmes de stockage thermique, donc ce qui est l'équivalent des centrales gaz. Et puis enfin, il y a un intérêt très lié au sodium, c'est que ici vous avez des circuits sodium. Ici, vous avez un circuit aux vapeurs, un cycle de conversion en Rankine classique pour faire de l'électricité. Et donc, classiquement, dans un réacteur sodium, il y a un composant qui est compliqué pour nous, c'est le générateur de vapeur, avec le risque de réaction sodium-eau à gérer. Et donc là, un aspect assez élégant de la solution, c'est de dire on introduit un fluide de couplage, qui est notre fluide de stockage thermique, qui va être à la fois compatible avec le sodium et l'eau. Et donc ici, on a un échangeur sodium-sel, pression atmosphérique des deux côtés, pas besoin de pressurisation. Et finalement, le générateur de vapeur, c'est un générateur de vapeur sel au vapeur qui est ici, en dehors de l'INB, non ESPN. Et donc, on a des bénéfices, sûreté, simplification de l'installation, assez intéressant. Et donc, ce truc-là, où on peut se dire, c'est un truc en plus, c'est du CAPEX, ça vous coûte de l'argent. En fait, non, ça nous fait gagner de l'argent, parce que ça coûte rien. Ça existe déjà dans le solaire, c'est déjà industriel, hein, c'est des grands réservoirs de sel nitrate, c'est déjà déployé dans plein de pays du monde. Surtout pour le solaire. Et donc voilà. Ça, c'est Exana. Peut-être sur ce schéma, ça montre un peu les leviers de valeur. Donc, ça, c'est le site du combustible classique. On a des REP, on est content, on fait plein d'électricité bas carbone en base. On recycle une fois du MOX, on est content. Néanmoins, on a nos MOX usés qui sont là. On a de l'uranium appauvri à ne plus savoir qu'en faire. Donc, le premier levier de valeur pour un réacteur à neutrons rapides, c'est d'utiliser ces combustibles-là pour refaire de l'énergie. Deuxième levier de la valeur, si on fait de l'électricité, c'est de la faire de façon très flexible grâce au stockage thermique. Et enfin, le plus gros marché, c'est celui de la décarbonation industrielle, où à partir d'eau et d'air, on va pouvoir alimenter tout un tas de flux, de cycles de conversion, de processus chimiques. Voilà, électrolyse de l'eau, haute température, 150 degrés pour faire de l'hydrogène, direct air capture pour prendre du CO2, l'azote de l'air, procédé Haber-Bosch, hydrogène plus azote pour faire du NH3, de l'ammoniac décarboné, processus qui a besoin de 450 degrés, ça tombe bien, on les a. Fischer-Tropsch, combiné CO2 et H2 pour reproduire toutes les chaînes carbonées, le kérosène, le diesel, etc. Ça, on a besoin de 250 degrés, ça tombe bien, on les a, etc. L'acier, on a besoin d'hydrogène, on a besoin de chaleur, bon, bref. Vous avez compris. Quelques ordres de grandeur sur un module Exana, donc faut faire x2 pour une solution qui ferait que ça. Donc on peut faire jusqu'à 400 tonnes par jour d'hydrogène, 2000 tonnes par jour d'ammoniac. Donc l'idée de ces ordres de grandeur, on n'a pas encore fait l'acier et les e-fuel, mais on est quand même dans une installation industrielle costaude. C'est du petit réacteur qui se veut modulaire dans sa conception. À la fin, effectivement, ça ne tient pas sur un camion. On n'est pas sur du micro-réacteur. Par contre, on fait vraiment des choses, quoi. On ne fait pas quelques kilos d'hydrogène, quoi. On est sur l'ordre de grandeur de ce dont a besoin un site comme une raffinerie à Fosse, une aciérie à Dunkerque, etc. Alors 400 MW, c'est le meilleur arbitrage. J'en ai un peu parlé dans la présentation d'avant. Il faut que ce soit assez petit pour être un SMR, donc la construction en usine avec le critère sur la cuve, un certain nombre de simplifications, les systèmes passifs, etc. Mais pas trop petit, déjà pour la technico-économie. Vous voyez cette courbe sur l'effet d'échelle. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire des micro-réacteurs. À un moment, ça reste du nucléaire. On aura beaucoup de frais et donc il faut se rembourser par de la puissance. Les besoins industriels, quand on va voir les gros sites industriels, ils n'ont pas besoin de micro-réacteurs de 1 MW. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs centaines de mégawatts, voire 1 gigawatt pour un site comme Fos-sur-Mer. Et puis, sur le cycle des matières, l'isogénération est possible. C'est-à-dire que si on est trop petit, on est plutôt consommateur de plutonium. Il faut être assez gros pour quand même pas taper trop dans les stocks de plutonium et renouveler le stock. Donc 400 MW, ça c'est, on est assez convaincu que c'est l'ordre de grandeur du meilleur arbitrage. Je ne dis pas que ça ne bougera pas peut-être un petit peu, mais c'est le bon ordre de grandeur. Donc sur le cycle du combustible, bon, ça c'était la présentation d'avant, donc c'est la même chose, hein, l'indépendance énergétique, valorisation des combustibles usés, moins de déchets ultimes, hein, moins de 17% sur les déchets de haute activité, moins 40% sur les faibles activités. Quelque chose de très intéressant dans le réacteur sodium, c'est qu'on n'a pas de déchets sans exutoire. On n'a pas de graphite, on n'a pas de chlore, on n'a pas de cobalt. Donc quand on parle avec l'Andra, ils disent c'est bien. Par rapport à d'autres, c'est bien. On a juste un peu de B4C dans les absorbants, mais ça, pas trop le choix. Et puis vers le nucléaire durable, on sait retraiter le MOX, etc. Bon, ça, c'était un peu la présentation d'avant. Donc le cœur, le choix d'un combustible, bien sûr, souverain, UPU, avec des matières qu'on a sur notre sol, sur le sol national, qualifié fabricable, donc c'est une géométrie d'aiguille superphénix, donc une géométrie d'aiguille connue, moins de 28% de PU, parce qu'au-delà, il faudrait refaire des irradiations, et on n'est pas sûr de bien retraiter ces combustibles-là, et un gainage IM1 aussi bien connu, qualifié par des irradiations dans Phoenix. Les premiers modules plutôt avec du plutonium ex-UOX, c'est-à-dire qui a fait qu'un tour en REP, quelque part, fabriqué à Mellox, et le PU ex-MOX, c'est-à-dire avec du PU au vecteur isotopique plus dégradé, parce qu'il est passé plusieurs fois, il est passé en REP, c'est suivant plutôt les capacités d'Orano avec ce qu'on appelle Mellox 2, et donc le renouvellement des usines. Et ce que je disais un petit peu dans la précédente présentation, de dire le chemin critique, ça va être le combustible, même pour nous, où on a 50 ans de REX et on sait ce qu'on fait, à un moment, l'outil industriel, il n'est plus là. Il était là dans les années 90, dans les années 80, il n'est plus là. Donc, il faut aussi le reconstruire. Et ça peut vite être sur le chemin critique. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais j'aime bien le montrer. Voilà, peut-être ça, un peu le design. Donc, le module de 400 MW thermique, donc, vous voyez, assez compact, relativement compact hein, pour ARNR. Ça reste quand même des beaux bébés, hein, ça reste un gros réacteur, 400 MW thermique. On couple 9 mètres ici. Je dirais que j'ai visité la forge, il y a peut-être plein de gens qui ont les REP en tête. Le RNR, un des intérêts, c'est qu'on n'a pas de pression. Le sodium, il est liquide de 100 degrés jusqu'à 900 degrés. On a la pression des pompes seulement. Et donc, ce qui fait que tout ça, là, ce que vous voyez là, c'est pas le creusot, c'est plutôt du mécano soudé. Les cuves de RNR, c'est 3 cm, entre 2 et 3 cm à Phoenix. Et donc, quelque part, quand on fait ça, on n'entre pas dans le planning de PR2, Nouard et tout, etc. C'est un autre outil industriel. Et on n'est pas dans les forgés parce qu'on n'a pas de pression. C'est peut-être important de le préciser avec cet auditoire. Donc voilà, on couple dans un bâtiment réacteur deux réacteurs. Le fait de les coupler, c'est qu'on va pouvoir mutualiser un certain nombre de systèmes, notamment la manutention combustible, qui est un système en sodium qui coûte plutôt plus cher que sur le REP. Hein. Sur le REP, bah, c'est de l'eau. Vous avez déjà vu la manutention du combustible. On voit ce qui se passe. On ouvre, il y a les robots, on va chercher l'assemblage. Bah, en sodium, on ne voit pas. C'est toute inerté. Le sodium, c'est opaque. Donc, c'est des systèmes par ultrason. Tout est inerté en azote, etc. Donc, c'est plus complexe, c'est plus long. Et donc, si on peut mutualiser entre deux réacteurs, c'est bien. Et après, bah, sur un layout très simplifié, vous voyez l'îlot nucléaire, l'INB qui est ici, les stockages thermiques, un réservoir chaud, un réservoir froid, qui alimente un peu après un site industriel. Donc un enjeu, ça va être de montrer que l'INB elle peut s'arrêter là. Et que ça, ça peut être de l'ICPE. Et voilà. Peut-être s'arrêter là, mais en tout cas, typiquement, la turbine ou tout ce qu'on fait avec l'industriel, c'est pas l'ASN qui vient voir ça. L'ASN, elle vient voir ça. Et ça, donc, bon, il y a plein d'intérêts, mais quelque part, c'est rassurant aussi pour lui qui se dit, moi, je veux pas savoir, enfin, personne veut savoir ce qui se passe de chaque côté, quoi. Et donc, le stockage thermique, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le découplage assez fort qui fait que s'il se passe des choses de ce côté-là, bah, ça va pas me faire un transitoire de ce côté-là, quoi. Le transitoire, on va l'absorber ici et on peut faire du pilotage qui fait qu'il va rien se passer. Et de la même façon, si le réacteur s'arrête un peu brutalement, on peut gérer la chose de façon assez douce ici. Donc ça, c'est intéressant. La plupart des concepteurs de réacteurs Gen 4, ils commencent à inclure hein, des stockages thermiques. Natrium, Keros, USMC, Moltex, ils ont tous des stockages thermiques. Voilà notre planning. Donc on veut déployer plusieurs vingtaines de réacteurs d'ici 2050 en France et en Europe. On vise donc le démarrage d'une tête de série directement. Pas une preuve de concept, pas un réacteur expérimental, pas un prototype, une tête de série industrielle en 2035 en France sur un site nucléaire. Avec après un déploiement assez rapide vers des sites industriels nouveaux. Pour être à l'heure, bah, il faut commencer maintenant de la conception et le processus réglementaire qui nous amène à un DOS en 2026 et à une DAC en 2030. Alors comment accélérer? C'est la question qu'on a souvent. On dit, nous répéter à longueur de temps que le RNR c'est mature et tout, et puis en attendant c'est 2035 votre affaire là. Bah oui, parce qu'on raconte pas n'importe quoi. On connaît les plannings récents des projets RJH, ITER, EPR, Astrid aussi. Donc déjà, faut être un peu humble, je pense. Et puis, bah, là-dedans, il y a quand même des chemins critiques, notamment le combustible avec Orano-Mellox, qui peut être assez challenging. Le processus réglementaire, même s'il y a une loi qui a simplifié 2-3 trucs. C'est pas encore la panacée. Et puis, on peut accélérer un peu d'ingénierie, mais il faut savoir grossir aussi en termes de RH, en termes de budget, et c'est pas si évident. Donc voilà où on en est. On a déposé notre dossier BPI le 4 avril, donc il y a bientôt 2 mois. On est à la fois dans la préparation des levées de fonds, le gréement de l'équipe, les aspects RH, donc la préparation des partenariats. Donc les principaux partenaires, vous les avez là, mais on a 15 lettres d'intérêt d'industriels. Donc, voilà, on discute avec les gros industriels français. Hein, on va en faire un projet quand même. C'est du capitalisme patrimonial français, quoi. On va pas chercher à l'étranger pour l'instant. Et donc, on vise un kick-off technique du pré-APS avant projet sommaire en octobre 2023. Donc, les challenges techniques, hein, y en a pas tant que ça. C'est le design complet du système, la modularité, la fabricabilité, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire un réacteur sodium modulaire? Ça veut dire une cuve transportable, mais est-ce qu'on préassemble des choses dans la cuve, etc. Enfin, il y a des questions comme ça qui seront intéressantes à traiter avec un acteur bien connu dans la salle, avec Framatome. L'échangeur sodium-sel, ça c'est un truc nouveau. Le réacteur sodium, on connaît. Les stockages thermiques en sel, on connaît. Le couplage des deux, on ne connaît pas. Donc là, il y a quand même un échangeur de chaleur un peu nouveau, potentiellement challenging, c'est-à-dire que des deux côtés, on n'a pas de pression, c'est bien, métaux liquides, sel liquide. Par contre, le métal liquide, c'est très bien parce que ça a un lambda, une bonne conductivité thermique, c'est tout l'intérêt du sodium, hein, c'est un super caloporteur, super calovecteur. Par contre, côté sel, ça a un lambda un peu tout pourri, c'est pas un bon conducteur thermique, c'est un bon calostockeur, mais c'est pas un bon échangeur. Donc l'échangeur, il est un peu gros, un peu complexe, donc là, il y a des choses à faire. Et puis bien sûr de la sûreté, du balance of plant, etc. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. Donc bon, la conclusion, hein, c'est que Exana pour nous c'est une solution crédible et mature pour décarboner l'industrie dans les temps dans lesquels on a besoin. Et au-delà de ça, ben, quelque part Exana c'est aussi un projet qui vise un peu à redonner de l'élan à l'industrie française, à se dire finalement tout n'est pas perdu, on va y arriver. Il y a un message positif un peu, il y a un message aussi de transmission, c'est-à-dire de tout ce patrimoine scientifique et technique qu'on est très fiers sur les SFR, d'en faire quelque chose, de l'amener dans le futur, de le réinventer un petit peu, et pour montrer l'exemple aussi au monde, quelque part, comme on l'a fait avec les REP dans les années 70, où on a décarboné notre mix électrique comme aucun pays n'a réussi à le faire, on a montré l'exemple au monde que c'était faisable. Nous, ce qu'on veut avec Exana, c'est qu'on montre l'étape d'après de la décarbonation et du nucléaire durable. Et on veut le faire avec voilà, l'ensemble de la filière française. Voilà, merci. Désolé si c'était long. Ah, j'ai beaucoup parlé. Hein.
Ah.
Ah bah c'est gentil.
Voilà.
Alors merci.
J'espère que t'as un sac suffisamment gros pour pouvoir.
Ça ira. J'aime beaucoup le vin. Moi, j'ai fait toutes mes études à Dijon, donc voilà, j'ai une affection pour le Bourgogne, mais j'ai pas encore ouvert. J'espère que ça en est quand même. Ouais. Voilà. Donc, bah merci, c'est très gentil. Ouais. C'est très gentil. C'est toujours un plaisir. Ah oui, une belle bouteille. Après, je peux rester 5 minutes aussi si vous voulez discuter après. J'ai des cartes aussi, si vous voulez prendre des cartes.
Vous nous avez indiqué qu'on avait une mine d'or, qui sont les 60 000 tonnes de déchets.
Oui.
Qui sont à la fois mine d'or et déchets.
Oui.
Il faut donc transformer la mine d'or en combustible.
Oui.
Et quel est l'outil industriel qui permet de transformer ce qui est actuellement un déchet en combustible qui va être introduit dans les...
Oui. Alors, effectivement, le produit de départ, quelque part, c'est un assemblage REP avec du plutonium, des actines mineures, des produits de fission en piscine à l'AG. Ça, c'est notre produit de départ. Donc la première étape, c'est de pouvoir les traiter à l'AG et donc de séparer le plutonium de ces combustibles-là pour après revenir dans le flux qui existe déjà du plutonium qui va d'Orano à Mélox.
L'outil
et après à Mélox...
L'outil industriel, c'est l'AG.
C'est l'AG et Mélox, c'est les deux. L'AG, c'est le retraitement, on va... Voilà, on va dissoudre le on va dissoudre le PU, après on va revenir en phase poudre, ça arrive à Mélox, et puis à Mélox on refait d'abord la pastille, après l'aiguille, après l'assemblage. Et c'est pas les mêmes teneurs PU entre les MOX REP et les MOX RNR, donc c'est quand même Mélox actuellement peut pas le faire, quoi. Faut faire une modification de l'INB, une nouvelle chaîne.
Il n'y a pas de nouvel outil à concevoir.
Non, les plans les a en plus. Les plans les a. Il faut convaincre l'État, Orano, mettre de l'argent et on y va. C'est-à-dire que les plans, on les a. Pendant Astrid, il y avait le projet de réacteur, mais il y avait aussi le projet qui s'appelait AFC, Atelier de Fabrication des Cœurs, qui était une ligne dédiée dans Mélox ou un nouvel atelier dans l'INB Mélox. Donc ce n'est pas une nouvelle INB. C'est quand même un article 26 au sens de modification de l'INB, parce que Mélox n'est pas autorisé à faire du MOX RNR, donc il faut quand même faire un processus réglementaire. On sait fabriquer ce combustible, on a fait Phoenix, Super Phoenix, on a fait les ATPU, enfin, etc. Mais c'est une question de disponibilité, effectivement, de l'outil industriel. Et quelque part, Orano était dans une position de dire moi, j'ai pas de demande, donc je fais rien. Personne ne me demande du Moxerenair. Sauf que depuis quelques mois, il y a M. Exana, représenté par moi, qui va voir M. Orano en disant j'ai besoin de Moxerenair rapidement.
Mais et la charge de combustible
oui.
qui restait en rade quand on a fermé Super Phoenix, pas oui. récupérée.
Alors, excellente question. Il y a un de mes concurrents qui s'appelle Nucléo, les amis du plomb. C'est une valeur énorme. Alors, il y a deux problèmes. C'est-à-dire que, effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire de Super Phoenix, un des trucs les plus rageants dans l'arrêt de Super Phoenix, c'est qu'on a arrêté le réacteur alors qu'on avait un cœur neuf construit en piscine, prêt à charger. Donc, on avait 18 mois de fonctionnement, des terawattheures d'énergie propre, et on n'est pas allé jusqu'au bout de ce combustible déjà fabriqué. Donc, il est neuf, il est là-bas. Par contre, du combustible neuf qui a déjà 20 ans, le plutonium, il s'est déjà américié. Donc, on n'est déjà plus sur du bon plutonium. Ça reste des assemblages, donc ça veut dire cisailler les assemblages, récupérer la matière, la ramener à Mellox, etc., pour en refaire quelque chose. On l'a regardé au CEA, c'est pas crédible. Nucléo, nos concurrents du plomb, eux, ils se sont dit, eh ben, chiche, nous, on garde même l'aiguille et l'assemblage, quoi, et on refait un réacteur. Et là, on tombe sur un autre problème, c'est que Super Phoenix est teneur plutonium 17, quelque chose pour cent, et c'est bien pour un gros cœur, mais si on fait un petit cœur, il faut du 28% ou au moins du 25, donc on ne peut pas être critique avec des aiguilles Super Phoenix telles qu'elles sont. Et en plus, si on l'avait fait tout de suite, c'était possible, mais c'est 30 ans après la fabrication, le combustible il n'est plus vraiment neuf, quoi. Il est un peu américié, donc on ne peut plus le reprendre comme un combustible neuf en termes de radio pro, etc. Voilà. Mais Nucléo l'a demandé officiellement à EDF. Hein. Ils sont allés voir EDF en disant on aimerait vous racheter les combustibles Super Phoenix neuf. Donc EDF s'est dit pourquoi pas si je m'en débarrasse, mais vous en ferez rien.
Je m'excuse d'insister sur Super Phoenix.
Oui.
Et les assemblages fertiles de Super Phoenix.
Les assemblages fertiles de Super Phoenix, effectivement, c'est. Les aiguilles, on pourrait peut-être les valoriser, je ne sais pas. Après, l'assemblage Super Phoenix, il faut bien voir la taille que ça fait. Hein. C'est 5,40 m. Donc, ce n'est pas transportable dans les châteaux. Donc, ça veut dire, première étape, se faire un atelier de découpe de cisaillage sur l'INB Super Phoenix pour reconditionner ça, pour ramener ça à Mellox. Donc, sur PowerPoint, ça marche bien. Puis, dès qu'on creuse un peu, ça marche un peu moins bien. Et la taille aussi va pas, quoi. SMR, nous, c'est 4 mètres. De hauteur, hein, les assemblages. Chez nous, Super Phoenix, c'est 5,40 m, donc 5,40 m, ouais, c'est ça. Allez-y, monsieur. C'est une bonne question. Alors, il y a des menaces très liées à avoir un bon démarrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte solide sur nos bases, déjà en termes de modèle partenarial. Quand je mets CEA, EDF et Framatome, on négocie avec ces trois acteurs-là pour l'accès à la Pays-Bas grande, pour faire quelque chose où tout le monde s'y retrouve, avec la crainte par ces trois acteurs-là de dire... toute la propriété industrielle de 50 ans de RNR, c'est en même temps un trésor. Mais si je la donne à une société privée, qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qui se passe si les Américains arrivent au capital? Et ça se trouve, ils vont vouloir aller exporter ça en Chine. Enfin, donc il y a un aspect juridique qui est pas évident, qui est potentiellement quand même un truc difficile pour nous. C'est-à-dire où tous les acteurs ont envie qu'on fasse ça, puis dès qu'on commence à regarder dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Les levées de fonds, l'argent, je pense qu'on aura de l'argent. Les investisseurs à Paris, ils sont prêts pour ça, ils ont compris. Moi, je leur présente ça, ils comprennent, ils voient l'intérêt du projet, ils voient la solidité du projet. Et la vraie difficulté en termes de planning, c'est Mellox. Enfin, c'est ce dont on va parler, quoi. C'est-à-dire que refaire une ligne pour faire du MOX RNR à Mellox. Mellox, c'est une usine qui a en ce moment, depuis ces dernières années, pas mal de problèmes. Et donc Orano ne veut absolument pas s'engager à dire j'ai déjà du mal à faire ce que je devrais faire en MOX REP. Si je me rajoute du MOX RNR dans l'équation, là, ça ne va pas le faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait faut qu'on existe, il faut que nos besoins ils soient assez crédibles pour que Orano et l'État se disent ok, j'y vais. Mais ça peut être un des risques. Les risques technologiques, j'en vois pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on arrivera à être économique? Est-ce qu'on arrivera à être assez modulaire, assez petit? On verra, ce ne sera peut-être pas le Lego dont on rêve, super simple à fabriquer, etc. Ça restera peut-être une installation un peu complexe, mais le réacteur, il est faisable. Et sur la sûreté, je pense aussi que ça va être de l'énergie, ça va être un boulot de longue haleine, mais je ne vois pas de raison de ne pas y arriver. Donc plutôt combustible et puis un peu modèle partenarial pays pour bien le lancer, quoi. Vous avez du temps un peu ou...
Oui, c'est le sujet qui fâche.
Non, mais c'est long. C'est certainement pas une motivation technique et encore moins combustible. Hein. Super Phénix, à l'époque, on avait les ATPU, on fabriquait les combustibles à cadarache pour Phénix, pour Super Phénix, tout ça se passait très bien. Super Phénix, je pense que. En 1997, le baril de pétrole, il vaut 10 dollars de mémoire. L'uranium, ça vaut rien du tout. Les pays, ils arrêtent un peu le nucléaire suite à Tchernobyl. Il n'y a pas du tout de tension sur le marché de l'uranium. L'installation, elle a été sous les feux de la rampe des écolos pendant 10 ans. Et puis au moment où elle se met à bien marcher, après toutes ces difficultés de jeunesse, il y a eu des difficultés de jeunesse à Superphénix Technique, voilà, il y a une coalition qui arrive au pouvoir avec un programme politique. Hein. Lionel Jospin l'a répété devant la commission d'enquête chez Schellenberger et Arnaud, il a dit non, c'était notre programme politique, on arrive, on ferme Superphénix et point barre. Astrid, c'est un peu différent au sens où l'engagement de l'État dans Astrid en 2010, 2010, c'est le grand emprunt de Sarkozy après la crise financière de 2008, c'est de la relance keynésienne de l'économie dans des projets technologiques. Et donc, Astrid, c'est 800 millions pour développer un projet de réacteur. Et le deal entre l'État et CEA, c'est pas de dire construisez un réacteur, c'est faites un avant-projet et on se revoit dans quelques années. On se revoit dans quelques années, on dépense nos 600 millions, on a fait un beau projet, un prêt APS, on entre en APD. Etc. À la fin, le réacteur coûte cher. Personne ne veut le payer. L'État ne veut pas le payer. EDF ne veut pas le payer. À un moment, il ne se passe plus rien. Quoi. Personne ne veut enclencher la phase d'après parce que personne n'est prêt à payer le réacteur. Et puis le projet est peu soutenu politiquement. Pour l'État, c'est plutôt une ligne qui s'arrête, qui était prévue jusqu'en 2019. On a épuisé les crédits qui étaient prévus depuis 2010. Le CEA a bien travaillé, on a relancé un peu des choses, mais globalement, on ne va pas plus loin. On est aussi dans une période où on ferme Fessenheim, où on fait des conventions citoyennes, la période n'est pas du tout propice comme maintenant, où on est dans une période, enfin, j'ai pas trop parlé de la guerre en Ukraine et de la géopolitique, mais dans ces années-là, il n'y avait que l'économie qui comptait. On sent bien que maintenant, la géopolitique de l'énergie, de l'industrie, ça revient sur le devant de la scène. Et les États, dont la France, vont refaire ce qu'on a fait pendant les années 50-60, c'est-à-dire des choix qui ne soient pas que économiques. Et donc, continuer Astrid, ça aurait pu être un choix qui n'aurait pas été que économique. Et je pense qu'à cette époque-là, le mindset des gens, c'était quand même de faire des choix guidés par l'économie. Mais ce n'était pas un problème de combustible. Il aurait fallu mettre de l'argent aussi à Orano, etc. Donc, ça, c'est un autre souci, mais ça coûte moins cher que le réacteur. Hein. On aurait trouvé. Voilà.
Bon, donc, on remercie encore une fois.
Vas-y. Historiquement, Phénix a été construit par Creusot-Loire. La cuve, les internes de cuve, etc., c'était du Creusot-Loire. Super Phénix, je pense, pas tout, parce qu'il y avait un consortium, mais il y avait aussi des Italiens, des Allemands. On sait faire ici, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais une cuve. Franchement, une cuve de RNR à faire, c'est un outil industriel différent de ce que vous avez actuellement pour les REP, mais je pense que c'est bien moins compliqué. Hein. À l'origine, les cuves des RNR, on les faisait dans les chantiers navals aux États-Unis, en Angleterre. C'est de la tôle mince, des coques de navires. C'est plutôt ça, quoi. Pour Super Phénix, c'était plutôt les Italiens. La cuve du barillet, je ne pense pas que la cuve principale, mais bon, on pourra en reparler. Après, il y a eu Gemont aussi. Alors Gemont, je pense, c'est Framatome encore, ou je dis une bêtise. Bon. Donc Gemont, à une époque, à Gemont, les échangeurs et les pompes, à l'époque de Phoenix, Super Phoenix, dans le nord, là-bas, je ne sais plus, c'est vers Maubeuge ou je ne sais plus où, il y avait un hangar complet avec des échangeurs RNR quoi, dans les années 80. On les produisait à la chaîne. Quoi. Et jusqu'à la fin des années 90 pour les échangeurs de remplacement. Donc ce savoir-faire, il est Framatome, clairement, clair et net. Circuit sodium, il y a un peu d'autres gens qui savent faire, mais c'est vrai que les gros composants, ce sera nécessairement Framatome. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. L'autre partenaire qui pourrait être intéressant dans le long terme, si on vend plein d'Exana et qu'on arrive en limite de capacité des usines ici, l'autre partenaire avec lequel on discute, mais c'est un partenaire historique de Framatome aussi, c'est MHI au Japon, où MHI a des capacités dans ses usines qui sont en bord de mer en plus, donc c'est assez pratique, de faire des cuves de RNR. Voilà donc où on en est. Donc une des questions qu'on a avec Framatome, quand on discute avec Jean-Marie et les autres, c'est de se dire, mais à la fin, est-ce que si on fait vraiment un réacteur modulaire, ça veut dire qu'on fait un préassemblage en usine? Cette usine, elle est Framatome, elle est Exana, c'est une joint venture, nanani, nanana. Bon. Et ça on va mettre du temps à se mettre d'accord sur ce genre de truc. Mais on a le temps, quelque part. Hein. C'est pas encore le sujet, mais... Si dans 5 ans je reviens pour avoir du foncier pour une usine joint venture Framatome Exana pour faire des. Enfin voilà, on la fera ici quoi. Mais, enfin ici, je ne sais pas exactement où, mais dans le coin. Il y a une logique. Voilà. Bon. Ouais, allez-y. Je peux vas-y, une dernière. Je suis chaud. Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, avant de faire Exana, effectivement, je pense que j'avais un sujet sur le panorama SMR-AMR qui intéresse beaucoup de gens. Et nous, au CEA, on a cette mission aussi, bah, finalement, d'informer les gens. On va dans les écoles, on va dans les écoles d'ingé, on va dans les conférences, on va dans les conférences FEN pour donner de l'information. Donc la raison première, c'était ça. Et c'est vrai que depuis, il y a eu Exana, et je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même présenter Exana, parce que c'est un territoire important pour le nucléaire ici. Donc j'avais envie de venir et j'avais envie qu'on en parle, d'avoir ce genre de questions pour le dire officiellement, on va dire. On n'est pas 400, mais il y a quand même un peu de monde quoi, qui s'est intéressé à ça. Et puis, la dernière raison, c'est que les 70 startups, elles sont créées depuis longtemps, elles sont déjà connues. Nous, Exana, même si on a eu un lancement médiatique qui s'est bien passé au mois de mars, on est en manque de notoriété. Donc, toutes les sollicitations, si vous avez d'autres sollicitations, alors je ne viendrai pas tous les 4 matins ici, hein, j'habite pas là, mais on prend toutes les sollicitations pour parler de notre solution, pour parler positivement de tout ça, de tout ça, et voilà, enfin, on se met à disposition des gens qui nous le demandent. Voilà. Donc, suffit de demander, et si c'est faisable. Moi, je suis à Avignon, et je vais souvent à Paris pour Exana, donc en fait, il y a une notion de stop, ici, entre... Enfin, je reviens de Paris, et je rentre chez moi demain.
Voilà. Non, mais l'idée, c'est que s'il y a des gens que ça intéresse à nouveau, on peut relayer...
C'est une excellente question parce que ça nous manque un peu, à vrai dire, on en cherche. Pour plusieurs raisons déjà, parce que c'est pour revenir au niveau de la concurrence. Voilà, Nucleo, les Italiens, vous avez vu la semaine dernière à Versailles, Choose France, je mange avec Elon Musk, Emmanuel Macron, Stefano Bonneau, PDG de Nucleo, j'annonce 3 milliards en France, nanani nanana. Vous avez eu le PDG de Narea qui est dans tous les voyages présidentiels, dans Air Macron One pour aller aux États-Unis, etc. Et effectivement, à ce niveau-là, de concurrence-là, un appui politique, c'est important. Et en fait, on l'a pas, quoi. Nous, on part vraiment, on est trois ingénieurs, on part un peu la fleur au fusil. On n'a pas le carnet d'adresse de plein de gens que j'ai pu vous citer au début. Néanmoins, dès qu'on contacte un peu les gens, bah, typiquement les députés qui ont fait la commission, les députés chez Enberger et Armand, on leur a présenté le projet, ils sont à fond forcément, parce que ça transparaît dans leur rapport qu'il faut faire ce genre de choses. Après, c'est quoi leur pouvoir réel? On sait qu'en France, le pouvoir réel, il ne suffit pas d'avoir quelques députés, des députés c'est facile à avoir, des sénateurs aussi. Le pouvoir réel, il est à deux endroits, je pense, il est vraiment que là-haut. L'Élysée, enfin, c'est l'Élysée qui dessine. Et donc avoir un appui à l'Élysée, c'est intéressant parce que c'est aussi un appui qui permet de parler en même temps à tout le monde. Quoi. CEA, EDF, FRA, quoi. C'est un moment, si ces trois acteurs ne se mettent pas d'accord avec Exana, nous, avec nos petits bras, on n'a pas le 06 de M. Fontana, de M. Raymond et de M. Jacques pour dire on y va. Donc si ça vient, pour débloquer des situations, c'est bien d'avoir l'Élysée. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et le deuxième appui politique qu'on cherche, et là qui est plus facile à avoir et je pense qui est assez stratégique, c'est de dire que on ne fait pas des réacteurs à Paris ni en métropole et que c'est des vrais projets territoriaux de réindustrialisation. C'est aussi pourquoi je suis là, parce que je trouve qu'il y a des territoires qui la jouent bien. Enfin, quand je vois un peu la communication du Grand Chalon, du coin ici, je trouve ça bien, quoi. Et il y a quelques territoires qui font comme ça. Dunkerque, à peine créé, Xana, deux jours après, mail de communauté urbaine de Dunkerque. Nous, on a du foncier, on a des besoins, venez chez nous, venez décarboner Arcelor, venez pour les Gigafactory et tout, venez à Dunkerque. Il y a des territoires qui sont comme ça. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'actions avec la région sud, Fos-sur-Mer, pour dire, on installe Exana là, parce que c'est près de Cadarache, de Marcoul, de Mélox, machin, c'est le sud, ok, il y a de l'ingénierie, etc. Mais il y a aussi nos premiers clients, CMA-CGM, 26 milliards de bénéfices l'année dernière, plus gros transporteurs, etc. C'est quoi son défi? Son défi, c'est de décarboner ses porte-conteneurs en 20 ans. Ben, c'est des gens qui viennent nous voir et nous disent « Ah non, mais vous avez compris, nous, on veut que vous mettiez des réacteurs comme ça dans les ports où on s'approvisionne, et si la solution elle nous convient, on est prêt à mettre de l'argent. » Arcelor, c'est les deux plus gros points en termes de CO2 hein, sur la carte de France. Hein. Arcelor-Fos, Arcelor-Dunkerque, de très loin. Les deux plus gros sites industriels en CO2, ArcelorMittal. Ben, c'est pareil, c'est des gens, on va les voir, on est super bien reçus et ça va marcher. Et donc c'est forcément, à la fin, il faut négocier ça. Et puis quand on va voir après une collectivité territoriale un peu industrielle, un président de région, président Muselier, enfin, des gens qui sont un peu pro-industrie, Xavier Bertrand, etc. Ben, ça, c'est des appuis techniques plus facile à obtenir pour nous, parce que ça part d'une assise technique solide, quoi. Si je vais voir demain Xavier Bertrand avec, écoutez, j'ai discuté avec Arcelor Dunkerque, avec tous ceux qui veulent faire des gigafactories, et on va faire un truc sur mesure pour les Hauts-de-France, on va être le laboratoire mondial à faire les batteries les plus bas carbone du monde, l'acier le plus bas carbone du monde, ça va être chez vous, c'est sûr que ça cartonne comme discours chez les élus locaux, ça cartonne. Paris, c'est plus compliqué parce que Paris, il y a beaucoup de politique et puis je pense qu'ils connaissent pas assez les territoires, l'industrie et ils ont un peu peur de tout. Quoi. Ils disent oui, mais l'acceptabilité de nanani, nanana, l'acceptabilité des gens qui ont des raffineries, des aciéries, c'est des gens qui gèrent du risque, c'est des gens qui gèrent des risques de rejet, des risques d'accident, déjà avec la population locale, les communes autour, tous les jours. Donc avoir un réacteur nucléaire en plus, en moins, ça leur fait pas peur. Ça leur fait pas peur. Faut les faire où il y a un passé un peu industriel, ou du nucléaire, mais. Marcoul, il n'y a pas de problème. Faux, ça ira. Enfin, il n'y a pas non plus 50 sites en France pour mettre Exana. On en a identifié peut-être une vingtaine, grand max, quoi. Mais effectivement, c'est deux approches différentes entre les territoires et Paris. Et les territoires, c'est plus simple. Enfin, les territoires, c'est un mot de parisien un peu en plus, les territoires, mais. Ouais, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Mais... Voilà. Et donc ici, c'est un territoire d'industrie ici, donc il y aura des choses à faire. Hein ?
Merci. C'est très gentil. J'aime beaucoup le Von Romanet.
Le
Von Romanet, c'est.
Ah bah bébé.
Je préfère la côte de.